We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Floui. Les poulpettes, les poulpes chefs de gare, les poulpes aux tendeurs, les poulpes couverts de charbon, les poulpes au marchepied, les poulpettes. Bon, enfin voilà quoi, chouchou comme on dit, et chouchou des sprites.
Ftagne à tout le monde.
Et oui, car dans le train qui nous emmène ce soir sur les rails du poulpcast, je sens qu'on va faire plein de. Je vais faire plein d'images basiques. Je suis avec mon dénommé comparse des sprites et quelques invités de talent qui parleront ou ne parleront pas ou qu'on coupera au montage. En les personnes de Dark Keeper, Prince Noir et Shining. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Oui. Donc, oui. Comme vous devez le savoir, si vous écoutez ce podcast ou alors vous allez le découvrir, déjà, je vais essayer de reprendre la bonne habitude que j'ai prise l'autre fois. Nous sommes le 16 septembre 2014. On doit être autour du 30e podcast. Et oui, 30. Et donc ce soir, on va pas faire la Java. Ce soir, on va parler d'une campagne mythique. On aurait pu la caser dans les précédents podcasts, dans cette marre des masques. Mais Desprite n'a pas voulu parce qu'il a dit que sinon on en avait marre des masques qui étaient très linéaires, on en aurait forcément marre de Terror sans Desprite.
C'est pas faux.
Donc. Nous allons parler de Terror sur l'Orient Express, autrement appelé Horror on the Orient Express in the language of McDonald's. Et car, si vous ne le saviez pas, une version française vient d'être, va être, et, ou, est en train d'être éditée par Sans Détour, suite à la même je dirais, opération du côté de Chaosium, qui a édité une nouvelle version. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est dispo encore la version américaine. Je suis pas sûr encore. Parce que je pense qu'il y a il y a Dustin Wright et tout ça qui sont en train de faire les. Et Charlie Crank qui sont en train de faire les boîtes. Donc le principe de ce podcast, ça va être un peu de faire les pour et les contre, les pros et les cons de cette campagne. Vous allez rapidement découvrir, je vous le dis pas, mais vous allez rapidement découvrir de qui. Enfin, de qui il s'agit entre Desprite et moi. On va commencer un peu par les actualités, hein, t'es d'accord Desprite?
Ah oui, carrément, oui.
Donc, première chose, bien sûr, vous êtes sur un podcast de Toc, donc, oreille chaste, ou alors gens bien pensants et mou du genou s'abstenir. On va dire des vraies choses et on va essayer de donner des avis.
Oui. À ce stade, je pense que c'est aussi important de dire que passer les actus, ça va spoiler vraiment méchant.
Ah ouais, ouais,
donc,
ouais.
Joueurs, passez votre chemin, ça serait dommage.
Parce que je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait faire une séparation, mais ce serait quand même assez délicat. On essaiera peut-être de parler un peu du côté joueur, c'est pas une mauvaise idée au début.
Ben, à vrai dire, je savais même pas si j'allais parler du spoil, étant donné qu'il y aura probablement beaucoup de joueurs à cette campagne.
T'es salaud, non, normalement, on devait garder le suspense sur qui défendait, qui pourrissait.
Ah, mais ça va rien dire.
Donc, on vous le rappelle, on vous l'annonce, la campagne de Sans Détour donc, va être commercialisée sous deux formats. Un format boîte classique, je crois, à 109€, avec trois gros livrets, plus un livret d'aide de jeu, plus des posters, des Mickey, des conneries pour les fanboys, et une version collector, je crois, en peau de agent de la SNCF. Je ne sais plus s'il y aura une version collector. La boîte sera plus jolie, il y aura peut-être des aides de jeu, des... Je sais plus, tu sais pas des sprites, non?
On parle bien de la version française, hein?
Ouais, la version française. J'ai plus la version collector, ce qu'elle aura de plus.
Alors, écoute, ouais. Il me semble qu'il y aura un authentique caméléon chanteur. Dressé.
Quand on lui presse sur le ventre, c'est comme les poissons au-dessus des cheminées.
Oui. Ouais, je vais regarder pendant ce temps.
Pendant ce temps-là, donc, un truc m'interpelle quelque part, comme dirait l'autre, c'est le coût des 109€. Alors que le bouquin vale 109€, soit. Ça me paraît un peu beaucoup, mais soit. Mais
clair.
Le problème que ça me pose, c'est la défense des gens, notamment sous les formes de TOC ou autres, qui répondent aux gens qui disent que c'est un peu cher, qui disent ben si t'as pas la thune, tu le joues pas. Alors,
oui, c'est vrai que c'est pas très élégant.
Je suis pas très bon en histoire, mais cette ségrégation,
ouais,
c'est pas génial, quoi.
Non,
parce que le nivellement par l'argent pour jouer à des scénars de, ça serait des scénars démentiels, des trucs de ouf avec des aides de jeu de malades. Que par exemple, moi, les montagnes hallucinées en version collector, c'était vraiment dément avec la boîte et tout.
Avec la boîte, ouais.
La caisse en bois.
Numéroté.
Que moi, je puisse pas me la payer, soit. Mais, j'ai envie de la jouer. Je m'appelle pas forcément Christian Lehmann, ou je sais plus comment il s'appelle. Je ne veux pas forcément des aides de jeu vivantes. J'ai peut-être envie juste d'un bon bouquin. Bon, allez, on va dire une belle campagne. Allez, 80 euros. Avec une boîte, ouais, c'est une belle boîte. Une belle boîte à 80 euros. Ok, limite. Mais là, que des gens disent... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Desprite. L'argument du « si c'est cher, si tu peux pas te la payer, bah, tu les joues pas. Et... »
Bah écoute, je sais pas, tu as lu cet argument, ça a été évoqué, parce que c'est quand même assez effarant comme...
Dans les forums, ouais. Je crois que c'était Azir Rafal, d'ailleurs, ça m'a étonné de lui. Et je crois qu'il a dit bah t'as 16 autres manuels à faire, t'as plein de trucs que t'as pas joué, donc t'as qu'à les jouer.
Alors écoute, moi j'avais lancé personnellement l'idée, parce que tu sais ce que je pense de cette campagne. mais néanmoins je suis assez d'accord avec toi. Je pense que faire l'économie d'une version straight avec juste ce qu'il faut pour jouer sans les aides de jeu, c'est difficilement compréhensible. Alors après c'est peut-être un positionnement marketing spécifique de Sans Détour, puisqu'ils savent que c'est une campagne de merde. Je parlais à un mec dans la piole. Non, vas-y, je veux pas de café, tu peux ressortir. Hein, j'enregistre. puisqu'ils savent que c'est une campagne qui disons, de nostalgique et on va dire de
gens qui ont potentiellement naïfs, les moyens.
De collectionneurs. Ils ont volontairement placé un prix d'entrée relativement haut. Comme ça, ils seront à peu près sûrs de rentrer dans leurs frais. Non, là, je suis spéculatif. Hein, je suis vache. Gardez ça.
La version collector s'est arrachée. Hein.
Ben voilà en fait, mais on pourra peut-être y revenir par la suite. Je vois de plus en plus dans le public qui se prétend rôliste trois tendances, les lecteurs, les collectionneurs et les joueurs. On peut être un peu de l'un ou de l'autre de ces catégories, voire les trois en même temps, ça pose pas de problème, mais visiblement, enfin, ce que je ressens, c'est que c'est un produit qui s'adresse avant tout aux collectionneurs, principalement les nostalgiques, ensuite les gens qui aiment le beau matos, parce qu'il faut reconnaître que c'est du très beau matos.
Oui, c'est clair.
Ensuite, peut-être les lecteurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un positionnement spécifique. Et je pense en dernier lieu pour les joueurs. Parce que si c'était une campagne qui se jouait, elle aurait été éditée dans un format propre au jeu, voire même un format straight. Et là, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre la version Deluxe et la version straight, donc la version straight, il y a déjà un guide touristique, il y a des affiches d'époque, c'est déjà des goodies qui sont appréciables, disons en termes d'ambiance méta. Hein,
ouais, c'est clair.
Mais pour la version Deluxe, tout ce qui vient en plus, ce sont... quasi exclusivement des aides de jeu, on va dire esthétiques. Il y a 6 cartes postales, 6 passeports qui ne servent quasiment pas, enfin c'est disons que c'est pour du méta-jeu, dispensable. On a une carte d'embarquement, idem, hein, c'est une sorte de goodies souvenir pour les joueurs, enfin c'est vrai, hein. Oui. Des modèles de télégramme qui vont, enfin... dans la version que moi j'ai connue, qui vont pas grandement servir, puisque ça va être probablement les joueurs qui vont s'en servir pour envoyer des télégrammes à des tiers. Donc c'est un peu... voilà.
Il n'y a même pas de simulacre en carton ?
Alors, je n'ai pas vu de traces de cette aide de jeu qui était présente dans la version précédente de Chaosium. On avait un simulacre en carton en découpé, qui était pas trop grotesque encore, hein, c'était sympa, sauf si tu mettais des attaches parisiennes et des ficelles dans le dos. On a une carte de l'itinéraire grand format. Alors ça, c'est une aide de jeu où je me dis, ok, là, ça peut peut-être servir pour que les gens visualisent bien au cours de la campagne vers où ils vont aller. Et enfin, il parle d'aide de jeu de la campagne clé en main. Mais alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas si c'est vraiment les aides de jeu qui sont présentes dans le bouquin, les journaux,
les notes de presse, je pense.
Si c'est le cas, il y a un véritable intérêt à avoir l'édition de luxe. pour ceux qui sont allergiques aux photocopies et qui aiment le beau matos. Mais pour le joueur strict, disons pour le rôliste qui est pas trop collectionneur, pas trop lecteur, il manque vraiment une version strict bouquin, point. Ouais. Pas de poster, rien du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs.
Complètement d'accord. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le... Bon, c'est pas une impression. Le format ne suit pas déjà la ligne éditoriale qu'avait fait Sans Détour. Donc on est plus sur le une bande en haut, une bande en bas, une illustration milieu avec un morceau d'illustration qui sort du cadre, que personnellement j'adore ce format-là. Et en plus, j'ai l'impression...
Ils sont rapprochés de la version des masques, je pense, non ? Ça en boîte, avec juste une illustration sur la tranche.
Dark Keeper, tu peux me dire où est-ce que tu as vu des pages de l'édition? Parce que moi j'ai pas vu la maquette, je sais pas où tu l'as
créée. C'est surtout la tranche, il parle du bouquin Dark Keeper. Oui, je parle de la couverture, parce que comme toi je suis sur le site de Sans Détour, je regarde juste les photos que j'envoie. Je sais pas s'ils ont un extrait. Oui, regarde sur le site de Sans Détour, tu as extrait du titre Aide de jeu. Eh bien, je t'invite à aller voir dedans, comme ça on va un peu voir ce qu'il y a, mais... Rien qu'à la couverture, on voit qu'ils ont voulu, je pense, faire quelque chose qui se démarque du reste pour attirer d'autant plus les... Mais je suis pas sûr que ce... Je pense que j'aurais bien aimé une édition qui va dans la continuité de la collection, ne serait-ce que pour ceux qui se contentent d'acheter les bouquins. Et la ligne éditoriale, ça sert à ça aussi, à voir la continuité de la chose. Alors, un bouquin en bleu clair qui risque de faire tache...
Bon, ils ont respecté la couleur qui enfin le bleu étant associé si je me trompe pas aux campagnes hors Nyarlathotep qui est en fascicule, mais par exemple les montagnes hallucinées étaient en bleu, donc ça c'est, il y a un respect, mais t'as tout à fait raison, j'y avais pas pensé. Si tu veux tenir une collection dans une bibliothèque par exemple, c'est vrai que ça dénature, et j'ai l'impression que la boîte est assez grande, je ne sais même pas si elle respecte le format A4 ou approchant.
Ouais, je pense, je sais pas tenir. Ouais. Bon, enfin, le fait est que, pour rebondir un peu sur cette problématique, elle en soulève une autre, le fameux projet de Kickstarter. Ah oui, alors déjà, première chose, c'est que les Américains, on en avait parlé au dernier podcast, ils vont avoir une version toute moisie, avec des illustrations toutes pourrites.
Oh.
Et eux, par contre, enfin, et puis même il y a des Français, hein, moi j'ai vu la liste, ils ont participé au Kickstarter.
Et tu vas balancer.
Oh non, ça se fait pas. Je vais pas citer de nom, mais de toute façon, ils sont dans le bouquin, dans la préface, donc vous pourrez les voir si vous jamais vous jetez un œil à la boutique, à votre boutique préférée, vous verrez la liste de ceux qui ont participé. Donc nous, encore une chance, je touche du bois. Et on échappe au Kickstarter pour les parutions. Mais vous avez forcément entendu parler du Black Grandeur Réelle, car, comme on dit dans le milieu, une campagne, ça se joue avec le Real Z de jeu. Donc oui, évidemment. Si vous ne le saviez pas, si après avoir payé les 149 euros, il vous reste environ 30 000 euros, eh bien, Christian Desman peut venir vous livrer chez vous. Hein, habillé d'époque avec une dame qui ne sait pas parler anglais, il peut venir tout à fait lui-même vous livrer donc une espèce de statue. Alors bon, c'est un style pour que vos joueurs jouent. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire durer, hein, parce qu'il va falloir rentabiliser, puis à la limite, faites un petit droit d'entrée. Moi, ce que je vous conseille, c'est moi, si j'avais 32 000 euros à claquer, je l'offrirais à un ami, ne serait-ce que pour voir sa gueule quand il verra le livreur sonner chez lui, et lui offrir une statue grandeur nature d'un simulacre qui sait probablement pas ce que c'est.
On va dire, il faut être copain avec Dark Keeper, c'est important.
Je n'ai pas 32 000 euros, je suis désolé. Alors, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui peuvent claquer 30 000 euros, là aussi, ça me dérange pas. Je suis pas un critique d'art, ça vaut 30 000 euros, je sais pas combien, pouf pouf, ok. Par contre, émettre le fallacieux prétexte que c'est pour le bien des rôlistes et qu'on ne peut jouer qu'avec un simulacre réel et que, soit dit en passant, sous une espèce de forme d'association de bienfaisance, les joueurs se regroupent, mettent tous la main au porte-monnaie pour s'acheter les aides de jeu, alors là, on sort du spectre, on est passé dans une autre dimension. Déjà, on joue de plus en plus en connecté, Donc on joue avec des gens, pouf pouf, ils arrivent. Enfin, on a l'époque du j'ai mon groupe, je pense qu'à l'époque de Christian, hein, qui est quand même un peu plus âgé que nous, ça se faisait encore, à mon époque aussi, mais à l'heure actuelle c'est quand même un peu plus dur. On rassemble pas de la thune, ou alors dans une association, je vois mal une association de quartier mettre 30 000 euros pour se choper la teub du simulacre. Enfin, derrière le truc, moi ça me dérange pas. Le seul truc, c'est essayer de justifier ça comme étant un apport à la communauté rôliste, et puis dire, enfin, mettre un peu les gens, genre, dans le style, enfin, dans le style, oui. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas un vrai rôliste. J'avais un peu l'impression d'entendre ça dans le discours de la personne qui est venue défendre courageusement, il faut l'avouer, la chose sur les formes de toc. Alors, je sais pas, ça c'est. Autant des belles aides de jeu, je serais le premier à être intéressé, tu vois. Le simulacre en petit, démontable, tu vois, un truc sympa que tu peux peindre. Je dis pas non, tu vois, tu mets, je sais pas, 100 euros, et puis t'as un petit simulacre en plastique, c'est une petite statuette où tu peux clipser les bras, machin, au fur et à mesure de la campagne, pourquoi pas? Tu vois, j'aurais bien acheté la même chose, 50 euros pour chacune des pierres du destin dans la campagne de Warhammer du même nom. Pourquoi pas? Le marteau de Sigmar pour la campagne de l'ennemi intérieur. Petite reproduction sympa pour faire fun, je dis pas.
Bon, c'est très
Mais
goodies.
voilà. Mais là, ben justifier un truc énorme comme ça en disant pour vraiment que la campagne prenne tout son sens, c'est là-dessus. Je sais pas, j'aurais plutôt fait une reproduction. Moi perso, j'aurais fait une reproduction d'un wagon. Tu sais, sur une petite maquette, quoi. Ça,
Ouais.
ça aurait été sympa.
Ah non, pour
Pourquoi pas?
32 000 euros, excuse-moi, t'as un wagon taille réelle. Attends, là, faut pas se foutre de la gueule du monde.
Non, non, non. Pour 32 000 euros, je veux que Fenalik vienne me servir le thé à table. En m'appelant monsieur.
Et qu'il arrive sous forme de
En
fumée.
tenue de soubrette.
Antoine Souboîte. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre à nos rigolades, derrière la sortie de cette campagne, qui reste ce qu'elle est, il y a eu des petits à côté un peu fun, ce qui nous a amené à nous dire pourquoi pas en discuter, parce qu'en plus.
Attends, attends
Oui?
juste, bon, il faut quand même que, enfin, tu sais, le gars qui défendait donc le Kickstarter sur le simulacre,
Ouais.
il a fait un très très long texte. Je ne l'ai pas lu en entier parce que la forme m'a arrêté. Je ne connais pas le contenu de ce texte, mais je voulais juste savoir, est-ce que, parce que tu sembles dire qu'il prétend que c'est vraiment quelque chose qui rajoute un gros gros plus à la campagne quand on a le simulacre.
Ouais.
Est-ce que d'autres l'ont lu? Est-ce qu'ils en retirent la même chose?
Non, c'est clair que c'est indéfendable, quoi. La manière dont c'est fait,
Non
déjà,
mais.
je pense qu'ils n'ont pas bien compris comment ça marchait, tu vois, ces projets de financement, parce que mettre un palier à 30 000 euros,
Mais toi, ce que veut dire des sprites, Prince Noir, c'est est-ce que pour toi, c'est le mec défendait bien son truc dans les forums? Est-ce que pour
Enfin,
toi, ça
quels étaient
justifie?
ses... en fait,
Non?
quels étaient ses arguments? Parce que moi, j'avais l'impression que le mec disait, on est des passionnés, ce qu'on fait dans ce Kickstarter, ça peut intéresser les gens, souscrivez si vous le souhaitez. J'avais pas l'impression qu'il disait, vous devez avoir ce truc parce que ça va vraiment changer votre expérience de jeu. Mais comme j'ai pas lu ce texte en entier, je vous pose la question.
Ah si 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 si, il l'a dit, parce qu'il l'a dit, vous les
D'accord.
laissez dans la pièce où vous jouez. En plus, il disait, vous les laissez dans le noir. Truc à 30 000 euros, je le laisse pas dans le noir. Hein. Je mets des spots, je mets une guirlande de Noël et tous les mecs, ils viennent lui baiser les pieds à chaque fois qu'on arrive en session, quoi.
Alors attends, et pour 25 $, tu pourras quand même avoir une photo du simulacre, hein. Ça serait pas mal.
Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'exagère, mais bon, le mec, ses arguments, c'était non. C'est-à-dire que déjà, le type, on est dans un forum, il balance 500 lignes. Déjà, le type, il a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Il débarque avec ses arguments-là bizarroïdes en disant, il faut se mettre tous ensemble pour acheter les aides de jeu, pour pas que ça fasse trop de coûts pour le maître de jeu et tout ça. Enfin, c'était bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai pas trouvé ça.
Je crois que c'est toi, Prince Noir, tout à l'heure, qui a dit que c'était peut-être mal ficelé, ils étaient peut-être venus un peu
Oui.
chaud sur Indiegogo, parce que c'est là où il y a ce Kickstarter, hein,
Tout à fait, ouais.
Indiegogo.com. C'est peut-être ça, peut-être qu'ils se sont tout simplement fait dépasser par l'ampleur du projet et les coûts que ça générait, et du coup ils ont dû trouver sur le tard une argumentation commerciale, le coût du acheter-le avec vos potes, vous verrez, c'est génial. Sous cet angle-là, ça se défend. Non, mais enfin, je veux
Non,
dire,
mais c'est vrai, tu as parfaitement bien résumé.
il y a des
À
gens
mon
qui
avis,
sont
c'est une
embarqués, quoi.
maladresse. Au départ, c'est une maladresse.
Ça m'avait l'air d'être des passionnés qui vraiment aimaient la campagne. Enfin,
Mais t'as pas
c'est.
tort, des sprites, c'est vers la fin de son message, c'est ce qu'il reconnaissait. Il reconnaissait
Ah ouais?
qu'il, d'un point de vue forme, oui, pour l'avoir lu, moi, il disait qu'il n'avait pas tout, enfin, pas au bout du compte, mais je crois qu'il s'y était repris à deux fois, non, ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, le type disait qu'il était un peu cherché sur comment le financer et ils avaient trouvé cette solution la moins mauvaise. Enfin, le type essayait d'avoir des arguments, il y en avait qui étaient recevables, quoi. Mais le
C'est vrai que moi
côté.
je l'avais attaqué sur le côté, c'est qu'il y a une différence si tu veux entre le financement, le fait de participer un petit peu au projet, et le mécénat. Parce qu'à 30 000 euros, quoi, le mec il veut carrément se faire financer, quoi. C'est pas. On n'est plus dans un projet habituel, quoi.
Ouais. Donc voilà, autour de cette campagne, vous voyez une certaine effervescence des médias. Et comme Tonk aime bien quand il y a de l'effervescence parce que ça fait roter les bulles, on s'est dit, on va faire un poulpiest pour vous dire, est-ce qu'il faut dépenser 30 149 euros pour acheter le simulacre et la campagne?
Bah, attends, de toute façon, celui qui a sorti le meilleur argument, c'est toi, Vombe. Hein. T'as quand même sorti ce que tu nous
Ah
as dit
oui.
déjà sur le forum,
Ah
c'est payer
merveilleux.
30 000 pour se retrouver à quelqu'un avec qui tu tritues. Comment t'as dit ça?
Alors, mais c'est le problème, c'est que mes joueurs sont des bons joueurs, y a pas de souci. Mais même mes joueurs qui sont des bons joueurs, après 8 heures de partie, après peut-être 50 séances, parce que c'est vraiment une grosse campagne, je suis sûr qu'il y en a un petit peu fatigué qui, comme il pourra mettre la main dans son version tataillée pour la faire parler, il essaiera de faire lui tripoter le zgeg, quoi. Ouais, non, non. Donc, et puis je sais pas vous, mais sans même parler de cet aspect-là, typiquement, déjà une aide de jeu, bon, si c'est une feuille ou un document, les gens vont le regarder, le poser. Si c'est une figurine, bordel, ils vont passer leur temps à se le triturer, ils écouteront pas le jeu, ça sert à rien, quoi. Là, je suis d'accord. Mais bon. Enfin, le fait est que, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on a quand même bien rigolé.
Oh.
Et donc, on va
T'as fait
attaquer
des nouveaux
le.
amis aussi.
Voilà, encore, bah oui, j'en ai plein. Et encore. Non, ils m'aiment dans le fond, ces gens-là. Donc, on va commencer avec des sprites, essayer de défendre et démonter cette campagne. Juste pour faire un petit peu un tour de table, toi, Dark Keeper, tu nous disais que tu ne l'avais ni lu, ni joué.
Voilà. Donc,
De ton côté, Prince Noir, toi, tu.
alors lu l'original seulement, jamais joué.
L'original, ok, et toi de ton côté des sprites.
Je l'ai lu deux ou trois fois et j'ai jamais réussi à les faire jouer.
D'accord, mais tu t'es déplacé pour être gardien dès le départ. Moi, en
Ouais.
réalité,
Et
j'ai. Oui, pardon,
moi je l'ai
vas-y. Ouais,
joué.
parce qu'il y a
Ouais, je
Fox.
suis arrivé.
Tu l'as
J'ai
joué ou
joué.
fait jouer, Fox? Salut.
Je l'ai fait jouer, ça va? Ouais, je suis arrivé.
Tu l'as fait jouer.
Je l'ai fait jouer, ouais.
Tac. Et moi, de mon côté, en réalité, je l'ai d'abord joué en tant qu'investigateur. Et puis je l'ai lu après. Donc je ne l'ai pas maîtrisé. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant, on va avoir pas mal d'avis. Donc pour résumer, pour l'instant, normalement on n'a pas trop spoilé, on a fait des remarques, mais normalement ça vous a pas gâché la vie. On va juste passer un petit peu le côté joueur. Je pense que sans essayer de trop dévoiler, le fait est que si votre gardien vous dit on va jouer Terreur sur l'Orient Express, bon, comme on l'avait dit l'autre fois avec Dark Keeper et puis Prince Noir, donner le nom d'une campagne avant de la faire jouer, comme le nom de la campagne porte très souvent sa finalité, c'est pas forcément facile après, mais le fait est que si on vous a dit on va jouer Terreur sur l'Orient Express, on peut vous en parler un petit peu parce que vous vous doutez que ça va être terrifiant et que ça va se passer entre l'Orient et l'Express. Donc, pour faire bref, le pitch, comme on peut le voir d'ailleurs sur la fiche, la couverture, soit dit en passant, le fait d'avoir utilisé le logo du Simplon Orient Express rend les bouquins hyper classe et sans détour, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, la couleur simili-cuir avec le truc gravé version or, oh la vache, putain, ça défonce, hein.
Super beau. Très beau boulot.
Mais donc le fait est que vous vous doutez qu'il y a de très fortes chances que la campagne tourne autour donc du fameux train, le Simplon Orient Express. Alors sachant que l'Orient Express en réalité il y en a plusieurs, hein, parce qu'ils avaient des destinations un peu différentes. Mais donc cette campagne va être, comme dirait quelqu'un que je connais qui s'appelle des sprites, va être donc sur des rails. C'est en réalité bien qu'il puisse partir d'un endroit à un autre et tout ça, là vous allez suivre en réalité un de ses parcours. Je vous dis pas encore parce qu'on n'est pas dans le mode spoil, donc je vous dis pas où. C'est une campagne qui date des années 90, 80, 90, donc il faut le savoir, c'est pas non plus la révolution du narrativisme, c'est pas non plus la narration partagée. Hein. C'est-à-dire que on vous dit que c'est l'Orient Express, rapidement vous allez comprendre que c'est l'Orient Express, quoi. C'est pas là, c'est pas une tante qui a une maison ou alors qui a un billet à vous léguer sur l'Orient Express, mais c'est pas loin. Hein. Faut être honnête. Je sais pas ce que t'en penses toi de ton côté des sprites, mais assez rapidement on est dans le bain.
Oui, oui, qu'on le veuille ou pas. Allez, la bande de connards, avancez là, rentrez dans le train.
Il faut écouter des sprites, quoi. Enfin, comment on peut apporter crédit à ce mec-là? On lui fait jouer une campagne terreur sur Antesprite.
Tu veux peut-être une petite citation?
Il veut pas monter dans le train. Ouais. Ah ben moi j'aime pas le train, je veux pas monter. Bon.
Enfin, ça sent méchamment quand même le crossover avec Artum, Cthulhu, tout ça. Hein.
Alors, à quel niveau tu veux dire?
Monter dans le train, tout ça, bon, c'est pas très fin. Mais...
Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah non! Ah non!
Avec un signe des anciens sur la poitrine, c'est ça?
Exactement.
Bon, on va voir le premier ministre sur le dos.
C'est ignoble, c'est ignoble.
Ah, j'avais pensé à cette. Pourtant, j'ai l'esprit mal tourné, mais j'avais pas pensé à ce truc-là. Mais oui! Donc, non, en effet. Contrairement à ce que sous-entend Dark Keeper, qui vous avez compris, et du côté de ceux qui n'aiment pas la campagne, ce qui est très mal, donc en réalité, ce train ne vous mène pas vers l'enfer, mais vers le nirvana, vers le bonheur d'avoir accompli une campagne ô combien agréable, et ô combien derrière des dehors linéaires, elle peut être truffée de non-linéarité, voire même d'improvisation. J'aurais dû couper. Enfin, le fait est que voilà, on va pas pouvoir non plus trop parler sans spoiler, donc je pense que là, pour les joueurs, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter des sprites, mais le fait est que, soyons très honnêtes, si vous aimez les trains, faites-la, c'est sûr. Si vous êtes fan de trains, si vous avez des vieilles locomotives Fleischmann à 150€, allez-y. Si vous aimez le luxe, allez-y. Si vous avez aimé l'espion qui m'aimait, le James Bond, allez-y. Si vous avez aimé le crime de l'Orient Express, faites-la. Et si on vous la propose, déjà c'est que le mec il a dépensé, il a dû mettre sa maison en viager. Donc allez-y quoi. Si vous aimez les trains et si on vous propose, allez pas refuser quand même une expérience. Maintenant, on va être obligé de passer du côté maître, savoir est-ce qu'il faut acheter cette campagne. Au revoir les investigateurs. Et rendez-vous à la prochaine gare. Et puis si vous avez des expériences de joueurs, n'hésitez pas à les donner dans les forums. Donc on passe en mode spoil pour un peu décrire la campagne. Je te laisse un peu la main pour la description du début de la campagne, Desprite.
Es-tu bien conscient de ce que tu me demandes?
C'est pour voir ton objectivité, donc, ouais. Sa grandeur.
Bah écoute, déjà je vais faire peut-être des remarques un peu méta par rapport au à la campagne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on va pas forcément s'atteler à critiquer positivement, négativement la nouvelle édition dans les bacs chassant des tours. Ça, il faut bien le savoir. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de nouveau dans la campagne, c'est pas ce qu'on va faire dans un premier temps, en tout cas. Mmh. Donc on va critiquer. On va partir sur une base de la première édition française qui est sortie en 94 en livre glacé, relié correctement. Avec plein d'aides de jeu cartonnées.
Ouais, c'était de la reliure cousue, ouais, c'était du gros bouquin.
Ouais, ouais, c'est ça, 231 pages, avec une illustration de couverture qui spoil la fin de la campagne. Donc, ouais, on va partir là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, déjà sur le format, je vais commencer à être un peu personnel. Le bouquin, comme tu disais, il est broché, relié. Les feuilles ne sont pas volantes, donc c'est plutôt assez agréable. On a des paragraphes très synthétiques sur le début qui vous mettent assez rapidement, efficacement dans le bain. Qu'est-ce que c'est que l'Orient Express? Comment décrire un peu ce qui se passe à bord? Le luxe, les escales. C'est bien, c'est synthétique. C'est bien fait. On a une grande table des matières qui est assez bien fichue et assez bien détaillée. Ouais. Après, bon, on a le cœur de la campagne séparé en plusieurs chapitres en fonction des lieux dans lesquels les investigateurs vont être obligés de se retrouver. sur la fin, on a, alors, chose que je trouve remarquable, on a une série, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine de pages, qui contiennent, peut-être même une vingtaine, qui contiennent des petites fiches, des passagers du train. Et en fait, l'intérêt, c'est que ces petites fiches peuvent être utilisés en tant que PNJ, mais peuvent aussi être réutilisés comme des personnages d'appoint si l'un d'entre eux venait à se faire broyer sous les rails, enfin sous les roues du train. Donc ça, c'est vraiment vraiment appréciable. Ensuite, on a encore quelques petits encarts sur les célébrités à bord, la manière dont on peut utiliser certains aspects, enfin certaines parties du bouquin, puis des aides de jeu. Petite remarque, je sais pas si vous êtes d'accord, je trouvais que par rapport aux autres campagnes, il y en avait relativement peu. Je parle là d'aides de jeu exploitables. Pour vous donner un ordre d'idée, on va de la page 218, j'ai le bouquin sous les yeux là, à 228. Donc on a 10 pages d'aides de jeu recto verso. Ça reste conséquent pour un scénario, mais pour une campagne de cette
dimension.
Voilà. Y a
le
pas,
nombre de pays qu'on traverse, c'est léger. Ouais.
Bon, après le nombre d'aides de jeu fait pas nécessairement la qualité d'une campagne, hein. Ça il faut pas se leurrer non plus. On a après les horaires de l'Orient Express dans un format que je trouve quasiment illisible, puis des pages d'aide pour le gardien, une fiche type. Voilà, moi je déplore un petit peu, enfin ça m'emmerdait dans un premier temps, qu'il n'y ait pas d'index dans cette campagne, ce qu'il devrait y avoir dans toutes les campagnes. J'espère qu'ils ont eu la bonne idée d'en insérer un dans la nouvelle version, parce que c'est toujours une manière commode de retrouver très facilement des informations pour les meneurs de jeu. Voilà, je sais pas si tu voulais enchaîner sur la première partie, du coup.
Alors, ouais, attends, je suis en train de regarder s'il y a un index. Les gens ne voient pas pour le moment. Attends, je vois les aides de jeu à la fin de... Ça aurait été, ils ont séparé ça donc en trois livres, comme c'est appelé. Selon ce que tu disais, les destinations, mais je vois pas d'index. Ah, attends, c'est peut-être des aides de jeu.
Bon, y a je pas d'index.
Y a pas d'index. Yo, bonne chance les gens. Donc, y a aussi un truc que t'as omis de mettre, c'est qu'il y a toute une
les illustrations. Jeu,
les illustrations, ça sort un peu du spectre. Mais dans les aides de jeu sur le simulacre. Et sur notamment le parchemin,
oui, j'en ai pas
les
parlé,
morceaux,
effectivement.
Qui est assez bien foutu. Et il y a des plans les des wagons en pseudo 3D qui est assez sympa, parce que nous, je me rappelle, le gardien s'en était servi pour nous situer un petit peu dans les différents wagons. Ce qui est assez
très sympa.
Il y a des courses-poursuites et tout ça. Donc les trois bouquins pour juste faire le tour. Donc le volume 3 c'est Sofia, Constantinople, Londres. Le retour donc. Le volume 1 c'est Londres, Paris, Lausanne, Milan. Et le volume 2. Le volume 2 s'intitule Venise, Constantinople, Trieste, Vinkovitsky et Belgrade. Donc, pour attaquer un peu le bestiau, comment ça se lance?
On n'a pas vu, les amis, on n'a pas vu toutes les aides de jeu aussi. Oui. C'est qu'il y a encore d'autres aides de jeu. Il y avait un super poster, c'était vachement immersif sur. Ça devait être Istanbul, c'est ouais, Istanbul.
Ah, oui,
t'avais
oui,
aussi
une
belle carte des différentes lignes d'Orient Express. Les passeports, on en a parlé ou pas?
Oui. Non, pas dans la version 95.
Ah si si, t'avais des passeports aussi.
Non, je crois qu'il y en avait un. Il y en avait un.
Non, mais qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé.
Ouais, voilà. Donc ouais, effectivement, passeport uniquement américain cette fois-ci. Et le prix était vachement raisonnable à l'époque, c'était 259 francs ou 250 francs à l'époque. Ce qui fait que, je crois que si on rapporte à l'inflation aujourd'hui, ça fait 50 euros. Hein. Donc on voit le nombre d'aides de jeu qu'il y avait en proportion. Avec de la super qualité parce que les plans en semi-3D étaient en carton. Donc c'était quand même hyper résistant.
Et on pouvait les photocopier pour faire de nouveaux wagons.
Et ben je trouvais que c'était quand même pas cher payé, surtout si on fait le rapport par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui.
Exactement.
Ah ouais, non, c'est clair. Donc c'était vraiment un beau bouquin. Et pour être très honnête, pour lancer un peu le truc, moi quand je l'ai joué en tant que joueur, en tant qu'investigateur, c'était la première aventure que mon maître maîtrisait. tous jeux de rôle confondus. C'était la première fois qu'il était maître à un jeu de rôle. Donc, à savoir que maintenant, avec la version sans détour, je ne vous cache pas qu'il y a des tonnes d'illustrations qui sont plus belles les unes que les autres avec des photos d'époque, et que mon gardien à l'époque s'en était super bien sorti, Fred, un spécial dédicace. Donc, et imaginez qu'il s'en soit bien sorti à l'époque avec des illustrations assez mochouilles. Donc maintenant, à notre époque, avec tout ce qu'ils ont rajouté, ça, on sera tous d'accord. Là, d'ailleurs, c'est peut-être qu'il en fait un défaut pour ses détracteurs, mais cette campagne est très abordable. C'est quelque chose qui... Elle a une difficulté, beaucoup. Elle a certains points difficiles, mais c'est très abordable pour un gardien. Il ne faut pas être un gardien hyper expérimenté pour forcément se lancer dedans. Ça va demander du travail, mais ça, il n'y a pas besoin d'être un gardien expérimenté pour savoir abattre du travail. Mais ça ne demande pas des trésors d'ingéniosité. Elle est quand même bien décrite. Elle est encore mieux décrite dans la nouvelle version. Je sais pas ce que t'en penses, Desprite, mais c'est...
Je mets un bémol. Alors, c'est-à-dire que oui, c'est très bien décrit, à mon sens trop. Par contre, je retrouve vraiment des moments avec des écueils pour le gardien débutant. C'est-à-dire que si le gardien débutant voit pas quels sont les dangers en termes de jeu, dans certaines scènes, on peut se retrouver dans des situations où la campagne prend fin ou alors dans des trucs terribles quoi. Et y a un autre aspect aussi, c'est que par rapport à la difficulté pour le gardien, il y a des scènes où il va falloir, comment dire, s'il a pas une aptitude à la manipulation ou à la diplomatie,
au mensonge,
il y a des fois où les personnages, et là on rentre déjà un peu dans la critique, vont, selon moi, se heurter au mur invisible de la campagne. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, où aux limites du monde, on se cogne et on peut pas aller plus loin. Soit parce qu'il y a une énorme falaise aujourd'hui quand on jouait à Skyrim, mais à l'époque quand on jouait au vieux jeu de rôle Elder Scrolls, on arrivait vraiment sur une barrière invisible. Et parfois, il y a moments, par exemple, les personnages veulent rentrer dans une boutique. Je pense notamment à une boutique de taxidermiste, et on nous dit on ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de gens à l'extérieur et les investigateurs risquent de se faire remarquer. Quand on a des joueurs qui ont de la bouteille, savoir les canaliser dans ce type de situation, c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, c'est vrai, c'est très bien décrit.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a quand même des difficultés. Enfin, le fait est que moi, la personne qui l'a maîtrisé, elle avait beaucoup joué avant. On avait fait les masques, on avait fait plein de trucs, on avait fait les ombres, et oui. Et on avait fait plein de trucs, et c'est vrai que elle attaquait en préparant le truc pendant plus de 6 mois, en relisant, machin, faisant des fiches et tout. Et puis à l'époque, on n'était pas encore déviants comme les joueurs de maintenant, et c'est tout ça du scénar. Donc, et c'est vrai que c'est assez délicat, parce que là, on va spoiler, hein, accrochez-vous à vos slips en poulpe. Cette campagne est basée sur un mensonge de A à Z. Les joueurs vont avoir l'impression de sauver le monde, enfin de tenter de sauver le monde, alors que non, ils vont complètement travailler du début à la fin pour les forces du mal. Et alors, personnellement, moi, quand j'ai fini la campagne, le sentiment que ça m'a laissé, c'est que cette campagne est absolument démente. Le fait d'avoir fait des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, je sais pas si c'est mon gardien qui l'a bien amené, pour qu'à la fin ils nous disent... Au fait, merci les kids d'avoir fait tout ça pour moi. Allez, vous pouvez mourir maintenant. Mais je me rappelle comment on était dégoûtés. Mais sans déconner, heureusement qu'on n'avait pas un simulacre réel, on lui aurait balancé un bras dans la tête et on l'aurait assommé, quoi. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton point de vue des sprites, mais cette construction-là, si vous le savez pas, ça vous fiche un coup, putain.
Ouais, alors ça, il faut reconnaître que c'est vraiment une grande habileté de la campagne. Je suis d'accord avec toi. C'est un revirement de situation qui est inattendu, qu'on rencontre. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça dans une campagne. Et c'est très très bon, ça.
C'est le truc. Alors, comme tu dis, ça implique des délicatesses. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas que vos joueurs s'en rendent compte avant, parce que là, ça gâche tout. Mais nous, comme on était un peu con-con, et puis qu'on était vraiment à fond, puis c'est... Ça repose sur le deuxième énorme, énorme avantage et énorme qualité de cette campagne, c'est que c'est une putain de montée dans l'onirisme et dans la dégradation du tissu réel au fur et à mesure des villes que vous allez visiter. Et ce qui fait que pris dans cette mécanique, vous essayez de survivre tant bien que mal, et quand à la fin vous en sortez, vous dites putain, c'est bon, on a ramené le simulacre, putain. Et là, il y a le mec qui vous dit, c'est gentil. Ça ça, je vous remercie. Je te fais un coucou, t'es mort.
C'est vrai que c'est un grand moment, ça.
Alors, ça enlève pas sa linéarité, mais vous arrivez à insuffler ça dans votre campagne. Très honnêtement, ça la sauve. Allez, on va faire du 80-20. 80% de chance que ça la sauve. T'es d'accord, des sprites ou pas?
Disons que ça lui donne un bon souffle de fin. Là où traditionnellement les fins de campagne sont assez convenues, boss de fin, point, princesse, ils ont beaucoup d'enfants. Là, c'est vrai qu'on a, on a un revirement qui relance un énorme intérêt à la fin de la campagne. De là à dire que ça sauve la campagne, non, jamais, jamais. Là, t'es en train de vendre du tapis, moi.
Attention, j'ai dit que c'était sous-tendu par la montée en puissance de l'onirisme aussi.
Alors, parce que... cette montée en puissance, c'est vrai, je la constate, on ne fait que monter vers des climax, et la fin est complètement tambour battant, hystérique. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très agréable. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que est-ce qu'on a envie de supporter tout cette pressade pour arriver à la fin? Et après, le défaut de la qualité, c'est que ce rythme tambour battant se fait pour moi au dépens de la liberté du joueur, dans la mesure où c'est une campagne que j'estime être largement dirigiste, dans laquelle les personnages sont des rats dans des cages.
À roulette.
Ah, c'est bien.
Des cages à roulette.
Parce qu'on des cages à roulette modulaires. On y reviendra.
Alors, je laisse cet argument-là parce que j'en ai un pour te péter tes petites dents de devant, mais je le sortirai plus tard quand je serai un peu fatigué et toi aussi. Le fait est que le démarrage n'est pas non plus transcendant. Il y a une espèce de convention, machin, d'un espèce de groupe, là, le groupe Challenger, je sais pas trop quoi. Pouf, pouf, vous arrivez là-bas, vous savez pas trop pourquoi. Enfin, vous êtes connu, machin, on vous a invité. Et puis, pouf, pouf, le mec qui organise la convention, il a joué avec le gars à la gazinière, et il a les cheveux complètement grillés, et il vous dit « prenez l'Orient Express pour sauver le monde ». Dit comme ça, je ne vous cache pas que vous pourrez repartir et couper le podcast persuadé que Desprite a raison. Mais non. Il a tort, car...
Mon piège se referme.
Car ce premier scénar, je dirais que c'est un peu comme en moins grand et en moins intéressant, le premier scénar des Montagnes Hallucinées. C'est-à-dire c'est un scénario qui va pas avoir forcément grand rapport avec le reste du bousin. Mais le fait est que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, et là-dessus on était d'accord, le problème c'est que la personne qui vous lance sur la campagne, c'est l'enquilé qui va vous niquer toute la campagne.
L'enquilé.
L'enquilé. Et le fait est que c'est une petite aventure sympathique. Ce qui me fait vous donner un conseil, si je peux vous en donner un, c'est si vous voulez faire jouer, ne dites pas que vous avez fait un terreur sur Ant Express. Faites jouer le premier scénario. Mmh. Vos joueurs vont dire c'est un scénar Cthulhu un peu moyen, bouf bouf. Par contre, ce que vous faites, c'est qu'à la fin, à la fin du scénar, le mec dit bon bah voilà, il va falloir que vous alliez en Europe, parce qu'il va falloir que vous suivez la piste du lac et tout ça, récupérer les pièces. Et là, vous finissez votre scénar. Tout le monde rentre chez soi, c'est fini, voilà, on rejouera peut-être. Et là, ce que vous faites, c'est que vous imprimez des billets de l'Orient Express avec le nom de vos personnages et vous les envoyez par la poste aux gens. Genre, convocation à la prochaine partie.
Oui, bah, tu sais,
c'est une pure idée, ça.
C'est une pure idée et quelque part, je suis content que tu abondes dans mon sens. Il faut bien mentir pour mentir et forcer la main à ces joueurs avec des aides de jeu élégantes pour les attirer dans ce piège à miel qu'est cette campagne.
Je ouais. Savais que les voir clair dans mon jeu, mais c'est vrai, c'est très juste, t'as raison.
Alors, je vais te poser une question, c'est comment est-ce que tu réussis à ne pas les dégoûter du premier scénar, étant donné que tu as à peu près 40 minutes de monologue à tenir par un mec qui est un peu chelou, sur des sujets divers et variés,
Alors, et très suspect. Le gros intérêt, c'est que mon maître savait très très bien falsifier une voix sifflante d'un brûlé au cinquième degré.
Ah, donc, mais je ne te parle pas de ce monologue-là, je te parle de celui de la conférence de 30 minutes qui précède.
Ah oui, non, bah, je crois qu'on l'avait pas fait en entier.
Ah, d'accord. Alors, juste pour replacer, l'ami des joueurs, enfin le pseudo-ami des joueurs, qui est une sorte de professeur présentateur de météo à grosse moustache, avec du vomi dans sa poche, enfin dans sa pochette de veston, parce que c'est les illustrations d'époque, page 33, je vous renvoie. Cette personne tient une conférence. Et bon, cette conférence, disons, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait résumer ça à ses joueurs, avec une petite musique, en lançant quelques phrases évocatrices, parler de certains sujets dans une espèce de fumée qu'on laisserait en fumant de gros cigares et se regardant d'un air énigmatique. Pas du tout, pas du tout. On a presque deux pages, enfin ouais, disons une page et demie à ouais. quatre, dans laquelle on nous présente tous les sujets que la personne aborde les uns après les autres, avec tous les points. Et donc, comme il s'agit d'une conférence, il est très malvenu d'interrompre la personne au milieu de la conférence et dire oh, attends, j'ai pas compris, tu peux me dire ce que c'est qu'une fée, parce que effectivement, on est sur ce genre de sujet. Il parle un peu de tout, des apparitions, des fantômes, de bateaux de pêche bretons, de plein de choses, des rideaux de perception. Et donc, si on s'en tient à la lettre de la campagne, vous allez devoir infliger un monologue de, disons, 15 à 30 minutes.
Sauf si tu le fais jouer en, tu sais, en une sorte d'invitation pour une soirée débat, en fait. C'est-à-dire que...
Et dans ce cas-là, on passe au format 3h30.
Ouais.
Non, mais là, mais ça m'étonne de toi, Desprite, le roi de l'aide de jeu.
Du narrativisme.
Pourquoi tu n'enregistrerais pas ce monologue et tu le passes en bruit de fond derrière pendant que tu fais jouer tes joueurs et tu interviens avec tes joueurs et les PNJ?
Parce que mes joueurs sont principalement des hommes et n'arrivent pas à se concentrer sur deux stimuli en même temps.
Bon, il est vrai que cette partie-là, c'est pas la plus géniale.
Alors, la partie d'après va la racheter. Il s'agit du monologue de 10 minutes, d'espèce de professeur brûlé. C'est un monologue de 10 minutes. Si vous voulez, voyez les films, les nanars, dans lesquels la personne, avant de mourir, le copain du héros, avant de mourir, il donne la prochaine étape au personnage principal. Il dit, dans le garage, sauve ta sœur, je t'en prie. Et ben là, on a à peu près le même remake, sauf que c'est un texte qui fait une colonne, trois quarts de page à quatre. Donc à peu près une lecture qui demanderait 5 minutes, dans laquelle la personne est censée agoniser, très gravement brûlée, et dans laquelle il est très très important que les joueurs ne puissent jamais lui poser des questions orientées. Donc en fait, si vous voulez, et à ce moment-là, à la même époque, un autre s'est retrouvé à Trieste. Oui, mais pouvez-vous nous dire qui vous a assassiné? Ta gueule. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais... Et tout ça en lisant, à moins que vous ayez appris ce texte par cœur. Alors, comment, à cette issue, tu arrives à leur donner envie de continuer la campagne? Je t'écoute.
Bah déjà, tu as envie de fuir Londres, parce que c'est là où où s'est passé le drame.
Paquebot, on retourne vers New York, on va chercher les masques de Nerdotep.
Dans mon souvenir, ça avait été beaucoup plus court, mais c'est vrai que je me souviens de l'obligation en termes de méta-jeu de ne pas l'interrompre pendant son monologue. En plus, le problème, c'est que moi, c'était la première fois que le maître était maître, donc on voulait pas non plus lui casser ses pattes.
Par respect, disais.
Voilà, mais c'est vrai qu'il... C'est peut-être intéressant de reformuler la chose ou de la couper. Là, je vais regarder dans la version, s'il y a toujours ce monologue-là dans la version de Sans Détour. Je vais regarder. Attends, si, vas-y.
Ce qu'on pourrait faire, c'est proposer des honnêtes aides de jeu sur cette campagne. Moi, je veux bien enregistrer ce texte en faisant le professeur Smith agonisant, mais je ne le ferai pas sérieusement. Si vous voulez faire une campagne Scooby-Doo, je peux vous le faire.
Le honnête aide de jeu.
Honnête, je sais plus comment on dit aide de jeu en anglais.
Bah si. C'est sorti. Props.
Props, honnête props.
Ça serait pas mal ça. Attends, je suis en train de regarder, page 66.
On est bien plus tard là, tu nous épargnes d'horribles saignements d'oreilles et d'œil. Hein.
Information importante, ouais non, je n'en trouve pas. C'est ça. Si, apparemment, il y a pas mal de choses. Pastille. Ouais. Bon, par contre, il a une sale tête, le professeur Smith, là.
C'est dans la nouvelle édition, tu veux dire?
Ouais. Ouais. C'est un croisement entre Freud et puis une grosse saucisse. Il a mangé beaucoup de saucisses. Il a un gros ventre. Ah.
Non, c'est vrai, Desp, quand tu lis la fin de l'aide de jeu, je suis désolé, mes amis, pour vous, pour moi, pour tous, je vous en supplie, faites cela pour moi, partez vite, et que Dieu vous protège, c'est vrai que c'est beau. Hein.
Et s'il vous plaît, faites-le dans l'Orient Express et pas en voiture ou en avion. Alors, attendez, j'ai du très lourd là, j'ai du très lourd. Sur le pitch de la campagne, alors parce que dans le premier scénario, on apprend que voilà, méchant simulacre, les pièces sont dispersées à travers l'Europe. Alors, je me suis amusé, très putassement, à regarder quelle était la superficie de l'Europe, puisque toutes ces pièces sont dissimulées à travers l'Europe géographique. Alors, vous apprendrez que l'Europe géographique fait des millions de kilomètres carrés. Soit pour 6 morceaux de simulacres de Sedefkar dispersés à travers toute l'Europe, un morceau tous les 1 696 666 kilomètres carrés. Alors, question, comment se fait-il que tous ces morceaux se retrouvent à toutes les étapes, et non pas du tracé, hein, mais toutes les étapes de l'Orient Express? C'est bidon. Bidon.
Alors, forcément, contre ce genre d'argument...
C'est du gène séquentiel. Et encore, dans le gène séquentiel, on y croit. Parce que il y a une probabilité. Là, le tracé de l'Orient Express, on peut le voir sur une carte. C'est pas du tout crédible. Quoi.
Ce qu'oublie de mentionner les sprites, mais je le comprends, parce qu'il est un peu embrumé dans ses propres arguments. Il s'écoute un peu parler. Donc, ce qu'il oublie de dire, c'est que au fur et à mesure... de l'aventure, l'intérêt de l'Orient Express, plus qu'un moyen de transport, va être le refuge de toute votre équipe. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est beaucoup de choses paradoxales. En réalité, vous l'apprendrez à la fin, mais à bord du train, il y a les pires salopards de la campagne. Me dites pas comment on n'arrive pas à les voir pendant toute une campagne à l'arrière du train. Mais moi, je me souviens plus comment on avait fait, mais on ne les a jamais vus. Mais le train, ce que je me rappelle quand je l'ai joué, c'est que c'était vraiment la bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on quittait une ville, on était content de revenir dans le train. Donc cette espèce de ligne directrice qui peut paraître...
Et là, il va dire que c'est le point de sauvegarde avec son.
Oui, c'est ça. C'est la maison. L'Orient Express est au loup caché, la maison, si vous voulez. Oui, c'est vrai, c'est le point de sauvegarde et c'est aussi l'endroit. Alors, si vous voulez, on peut aussi se faire la campagne Terreur sur l'Orient Express en deux scénarios. Ça s'appelle du quick play, je crois. Vous savez, les jeux vidéo qui se terminent en 15 minutes. On peut terminer Morrowind en 19 minutes, un truc comme ça.
Les speed tests, ouais.
Je vous explique. Il y a un moment dans le texte où il est indiqué que si jamais les joueurs ne trouvent pas certaines parties du simulacre, puisque c'est vrai, ces parties sont dissimulées à travers toute l'Europe entière, une toutes les 1 696 000 km, eh bien, c'est très simple, toutes les parties se trouveront dans le cercueil de Fenalik. Et alors, je ne sais plus si son cercueil se trouve dans l'un des wagons du train ou à Constantinople, mais donc voilà, en deux scénarios, en gros, vous avez terminé. Vous faites sauter le wagon qui abrite le cercueil du vampire, vous chopez tous les morceaux du simulacre. Et en troisième partie, vous faites la partie de fin, vous avez terminé.
Alors, voilà.
Tu fais penser au type qui raconte le Seigneur Zano en disant, tu sais, qu'en prenant un aigle, tu pouvais directement aller.
Oui.
Mais c'est le cas. C'est ça qui est terrible. Alors, c'est le cas.
Ce qui est intéressant, c'est que, en effet, finalement, je pense que Desprite a raison. Le mieux pour jouer ce scénario-là, c'est faire du stop, prendre des voitures d'époque, faire du camping, et donc parcourir toute l'Europe.
Y aller en avion?
Comme des beatniks en avion, bien sûr, parce que là je vous raconte pas la galère d'aide de jeu pour savoir quelles sont les lignes. Et au-delà des déplacements, il faut savoir que ce qu'a raté Desprite dans son explication, c'est qu'un des intérêts de la campagne, c'est le lieu même, c'est l'Orient Express. Je sais que lui, derrière ces dehors de technophile et tout, c'est avant tout un homme, je dirais, proche du peuple. Donc lui, le luxe, ça ne l'intéresse pas. Mais imaginons qu'on vous propose une campagne à jouer à bord du Titanic, à jouer à bord de l'Orient Express, où vous avez un type qui garde chaque wagon, où vous allez bien manger, où tous les soirs quand vous allez faire le briefing, vous allez manger dans de la porcelaine avec de l'argent, face à la campagne de Desprite, où vous avez donc le guide du routard de l'époque, où vous allez vous retrouver dans des pays où vous comprenez absolument pas la langue, à essayer de choper un avion qui va à trifouiller les oies, mais vous savez absolument pas, parce que si vous ne savez pas du tout par où commencer, la campagne va pas durer 50 heures, mais 50 ans.
Parce que l'Europe, c'est grand.
Donc oui, forcément, quand vous allez avancer sur Terreur sur l'Orient Express, vous allez vous douter à chaque fois que le train s'arrête, il y a quelque chose. Alors,
Oh, mais tiens, c'est étrange!
soit dit en passant, sois très honnête, vu que tu l'as relu aussi, mais je ne crois pas qu'il y ait un morceau du simulacre à chaque arrêt, si?
Alors, il me semble que si.
Ah merde.
Alors, je vais le
Même
refaire.
Chez Baba Yaga?
Non.
Alors, là, je me souviens pas, chez Baba Yaga. Je peux te dire qu'il y en a un. Il y en a
À
un à
Paris, à
Paris,
passer à
il y en a
Poissy.
un à Lausanne, il y en a un à Milan. Il me semble qu'il y en a un en Italie.
À Venise.
À
Et
Venise,
puis
oui.
c'est vrai, Desprez, t'as raison.
À Trieste dans les rêves.
Est-ce
Ah
que
non,
ça
pardon, c'est
serait
pas à Trieste dans les rêves.
non, est-ce que ça serait pas plus sympa plutôt d'aller voir Venise, d'aller voir Constantinople, d'aller voir Lausanne, ou d'aller voir quelle autre ville on traverse?
Plumeuset
Milan.
les oies, je crois.
Milan. Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'aller à mon cul sur Yvette, puis après d'aller à Trifouille sur Gruyère en Suisse, puis de passer par Garmigiano de Santa Maria en Italie, où il y a juste une église et trois pauvres pécrins qui parlent pas anglais. Donc oui, cette campagne repose sur le fait que vous allez faire un voyage fastueux vers des destinations classe. Donc
Ouais, mais
oui, en effet, il y a un côté très très droite, très très j'irais très entrepreneur qui a fait de l'argent dans une mais
bourgeois
pas
mondain, tu cherches.
voilà,
C'est le mot que tu
exactement.
cherches, bourgeois mondain.
Ils vont peut-être faire une version de gauche pour 10 euros où tu feras tout à pied où
Oh, ta gueule, sale pauvre. Garde ton édition pour communiste.
Non, je suis d'accord. Là où je
Tu
suis d'accord
mangeras
avec
du
des
pain sec.
sprites, là où je suis d'accord avec des sprites, c'est quand vous quittez Londres, vous savez où vous allez aller. Ça, c'est clair. Donc,
Ouais, mais
soit
vous savez pas
vous.
comment ça va se finir.
Non. Alors
Oui, mais vous savez
déjà.
que toute la campagne, vous allez faire un truc redondant et convenu avec des
Faux.
étapes prédéfinies, et vous savez que dans chaque étape, vous allez trouver un morceau du truc.
Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas joué, putain, mais le scénar à
Ouais.
Poissy, quand
Flippant de chez flippant.
nous, on s'est fait passer pour une équipe de tournage qui devait faire un film d'horreur dans les locaux d'un espèce d'hôpital, je crois qu'on visite, un hôpital
La
psychiatrique.
Charenton.
Oui.
Oui.
Charenton, on a fait des scénars, mais dément. Quand tu es à Milan et que tu visites la Scala de
Ah
Milan
oui,
et que
attends.
tu es derrière les décors et tout, et que tu es au milieu des gens qui sont déguisés en Romains, machin et tout ça, derrière des trucs un peu monstrueux, quand tu vas à Venise. Dans le en haut du la place Saint-Marc là, dans la au niveau de l'horloge là, je sais plus trop
Ouais,
comment le
Zagreb,
enfin
pareil. Non mais
alors
t'as raison.
je vais te dire un truc, c'est que en fait déjà je parlais juste de la structure, c'est-à-dire que
C'est vrai.
on sait que le train va avancer et à chaque escale il va y avoir une aventure. Rapidement on va se rendre compte aussi que à chaque escale il y a du, on va rencontrer le surnaturel. Donc dans toutes les parties d'Europe et dans toutes les grandes villes de l'Europe, le surnaturel attend les joueurs, ce qui est déjà pour moi assez improbable. Après je dénie pas l'originalité des situations qui sont proposées. Ce qui me pose un problème, et on va y revenir j'imagine, c'est la manière dont c'est scripté. C'est-à-dire que tout ce que vous avez cité, c'est des moments où il peut se passer des trucs géniaux. Le problème, c'est que la manière dont on y arrive, enfin, si vous voulez, ce sont des petites pièces d'un labyrinthe de rats. Et même si les pièces sont jolies, on est quand même dans un labyrinthe de rats. Moi, je parle de l'horreur Lovecraftienne. Je trouve que c'est une campagne qui n'illustre pas les thématiques de l'horreur Lovecraftienne. Et je trouve qu'on est plutôt sur des thématiques d'horreur plus classiques, un peu à la chill, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, sur ce point, t'as raison, je trouve.
Ouais, alors je me suis pas réfléchi, c'est vrai que c'est assez juste, ouais. Puis c'est des. En plus on passe dans des thèmes d'horreur des différents pays qu'on rencontre avec Baba Yaga, des trucs comme ça, donc c'est pas très. Non, c'est pas foncièrement Lovecraftien, tout à fait, ouais. Mais
C'est pas négatif en soi, mais je pense que ça, enfin, on gagne peut-être à en parler parce que il y a peut-être des gens qui apprécient particulièrement la thématique. Là, on est un peu plus sur des thématiques, je veux dire, traditionnelles. un peu plus humaine aussi. Et il n'y a pas énormément de passages extrêmement grandiloquents.
Il
n'y
a pas beaucoup d'entités. Hein. Beaucoup d'entités du mythe. Hein.
Ouais,
c'est ce que j'allais demander.
Mis à part le peigne à rejeton de Chubnigorat quand la maison courante te suit.
Et les Loigor aussi.
Et les Loigor, ouais. Ouais,
ouais. C'est vrai que c'est pas très très finalement. Ça, c'est une remarque tout à fait objective. C'est pas très très Lovecraftien. C'est plus de l'horreur, on va dire de l'horreur européenne, quoi. Des mythes, des légendes, des choses comme ça. Voilà, exactement.
Non, je pense, peut-être maintenant vous pourriez reprendre un peu la main pour raconter un peu comment c'est amené tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des morceaux crunchy, j'ai beaucoup pris la parole pour râler, mais il y a des moments excellents, les maisons hantées, les asiles d'aliénés, vous voulez peut-être un peu en parler, non? Je vous entends plus.
Vois-tu, on va essayer de patienter quelque peu. En attendant que notre présentateur adoré revienne.
Effectivement.
Par malheur, nous ne pouvons vous proposer une musique d'ascenseur. Et ni de violon ou de musique classique. Donc effectivement, moi je connais pas du tout la campagne, mais c'est vrai que je me demandais quelles étaient les entités du mythe derrière au final, puisque on était dans le spoil. C'est vrai que personnellement, j'ai du mal à voir le lien entre cette espèce de pantin de bois qui est ce simulacre et le mythe au final.
Fox, tu veux peut-être prendre la main là-dessus?
Alors voilà, j'ai découpé, excusez-moi.
Ah. Non, mais on a mis une petite musique d'ascenseur, on a fait bien géré, t'inquiète pas.
Intermède.
Allez-y.
Ouais, en fait, Dark Keeper demandait, et puis moi aussi un peu, est-ce qu'on peut évoquer un peu le pitch général, quelles sont les entités qui sont en présence, tout ça.
Alors, dans mon souvenir, tu me compléteras, Fox, mais donc en réalité, on est tout de suite pris en main donc par le méchant qui va nous amener à faire cette campagne, à rechercher donc les artefacts, dont le but est de réveiller une entité, je crois, c'est ça, en rassemblant tous les artefacts. Enfin, c'est ça, Fox?
Oui, oui.
Et le principe, c'est que en réalité, il n'est pas tout seul. Il fait partie de ce qu'on appelle la confrérie de la chair, si je me souviens bien. C'est une espèce de confrérie qui est finalement dévouée à essayer de faire renaître cette entité. Et alors là, bon, vous allez vous déchaîner, Dark Keeper et des sprites, mais en réalité, on se demande pourquoi une telle organisation n'est pas capable de retrouver les morceaux d'artefacts tout seul, et pourquoi elle demande à en effet une équipe d'investigateurs.
Oh, parce que 5 mecs ont probablement plus de chances que toute une organisation que de ratisser les 10 millions de kilomètres de l'Europe.
Exactement.
Et voilà. Puis ça serait moins vendeur s'ils avaient résolu le problème de leur côté.
Donc le fait est que on doit rassembler ces différents morceaux. Je crois qu'il est lié à ça, il y a le parchemin aussi de CDFK ou quelque chose comme ça, où on doit rassembler différents morceaux du parchemin pour finalement faire le sort et finalement faire revenir je sais plus si c'est CDFK lui-même ou un truc comme ça. Et puis le rock, qu'est-ce qu'on fait revenir?
C'est l'écorché, non?
L'écorché, oui, pardon.
L'écorché.
Et qui d'ailleurs, je sais plus, parce que moi je suis pas très fort en mythe de Cthulhu, mais c'est pas une entité du mythe, l'écorché.
J'en ai pas connaissance personnellement, mais après peut-être.
C'est pas une vision du roi en jaune ou un truc comme ça, non?
Un avatar de Nyarlathotep, non?
Ouais, je me demandais.
Il me semble que tout au début de la campagne, il y a le nom de Nyarlathotep qui pop. Je regarde pendant ce
temps. Mais le pitch, en réalité, de la campagne, c'est ça. Et sachant que un des principes, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez emmagasiner des artefacts, parce que bien sûr, comme c'est dirigiste, vous allez forcément les emmagasiner, en réalité, ça fait forcément baisser vos pourcentages, je crois, au fur et à mesure, de santé mentale ou de pouvoir ou quelque chose comme ça.
D'idée aussi.
Qui fait que, bien sûr, pour justifier de façon totalement linéaire le fait qu'on monte dans l'onirisme, on vous fait décroître au fur et à mesure certaines compétences, prenant comme partie que vous êtes un peu con et que vous n'allez pas vous douter qu'en vous débarrassant de ces artefacts, vous retrouveriez votre santé mentale de début. Donc vous allez bêtement vous les trimballer pendant toute la campagne en les empilant dans votre malle. Et le pitch est, ça je le concède, bien sûr, un post-it. Le pitch est ça, c'est retrouver les morceaux pour le grand méchant du scénar qui à la fin va vous dire ah, merci. Et vous tuer. C'est son but à la fin, c'est quand même de vous tuer. Parce que, au-delà de la trame, il faut savoir que ça fait quand même partie des campagnes les plus meurtrières. C'est-à-dire que vous allez vous battre contre en plus des entités qu'on ne connaît pas. Déjà, quand on vous sort des Loagor pour à combattre, vous imaginez que c'est impossible à buter. De toute façon, la seule solution, bon, je pense que c'est indiqué dans le scénario, hein, désolé des sprites, mais c'est de fuir. Parce que
oui.
les Loagor, je vous rappelle qu'ils peuvent contrôler les pierres et tout ça, donc c'est mort.
Et donc, les tourbillons qui font un des 100 points de dégâts.
Voilà. Donc voilà, le pitch, c'est ça. Sachant que, comme je vous l'ai dit au début et l'a rappelé Fox, au fur et à mesure de la campagne, alors il y a des trucs par contre qu'on rien à voir et on se demande pourquoi ils étaient rajoutés là, notamment à un moment donné, le pitch d'un des scénarios, je crois que c'est en Italie, vous devez défendre un couple ou sauver un couple qui est poursuivi par les chemises
Venise,
noires.
Venise.
Je me rappelle que ce scénario-là, on n'avait pas très très bien compris ce que ça venait foutre là. Et pour ne rien vous cacher, ce dont j'ai un peu peur. Alors peut-être que pour des gens non linéaires, c'est peut-être plus intéressant, et ça je dis ça en toute honnêteté, c'est que dans la version de Sans Détour, ils ont rajouté beaucoup de scénarios dans d'autres époques, où, par exemple, à l'heure actuelle, on essaie de démanteler une secte qui essaie de faire revivre l'écorché, ou à une autre époque, par exemple, Cthulhu Invictus, un chef de guerre, je crois... essayer de trouver un des morceaux du simulacre pour lui donner la puissance et vaincre pendant une bataille ou un truc comme ça.
C'est absolument abominable. Ces gens reprennent ma campagne faite maison, c'est horrible.
Moi personnellement, les scénarios qu'ils ont rajoutés, je suis pas sûr que je les aurais joués. Parce que on va perdre un peu la montée en puissance, je trouve, scénario après scénario. C'est-à-dire que en plus faut jouer avec des prêts tirés, forcément. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous étiez en train de jouer à Venise et tout, et vous allez vous retrouver en slibard, en toge et en tong. Et on va vous dire, bon bah maintenant on joue avec tout Invictus, tu prends ton bouclier et puis ta petite crête sur la tête.
C'est
et
excellent
hop.
C'est excellent.
Donc voilà, ouais, vous imaginez ce que je viens de dire.
En fait, c'est Scarry qui va faire jouer la campagne grâce à ça.
Mais clairement, pour des... Je pense que toi, ça te plaira tout à fait, les sprites. Moi, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça un ajout. Alors, comme toi, tu voyais pas de cohérence à l'origine, ça peut en donner. Alors que moi, comme j'y voyais de la cohérence, je trouve que c'est un ajout qui, justement, brise un peu la montée en puissance et la cohérence de l'aventure.
Ou le mystère, peut-être. Parce que, à mon avis, c'est des scénarios qui doivent expliquer une partie de la campagne. C'est peut-être
oui,
un peu dommage de déflorer
ça. On croise cette FKR ou des choses comme ça. De toute façon, je les ai pas tous lus. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu du rabibochage, quoi. Il faut savoir que ces scénarios-là ont été écrits par les Américains.
Le fait de faire des scénarios comme ça qui sont complètement décalés ailleurs, ça fait pas perdre un petit peu la ligne de l'Orient Express qui, je pense, fait quand même le charme de la campagne, c'est bien le cadre. C'est de s'en séparer comme ça.
Le problème, c'est que quand tu regardes, la seule façon de faire autrement, ça aurait été de développer d'autres endroits intéressants où s'arrête le train. Mais comme en les lisant un petit peu, apparemment, ils qualifient les scénarios en disant c'est un petit symbole, une petite iconographie. Si c'est des rails tout droit, c'est un scénario obligatoire qui va droit dans la campagne. Tu vas adorer des sprites. Alors que si c'est un scénario optionnel, ils mettent un aiguillage. Disant c'est un scénario optionnel, il n'y a pas besoin de le faire pour poursuivre la campagne. Et je trouve que le problème c'est que le crossover avec les époques, je trouve ça vraiment télescopé, très bizarre. Autant vous voyez un scénario comme peut y en avoir de rajouter dans les masques de Naratotep, genre tu mènes l'enquête, pars sur une fausse piste, mais qui est assez crédible. Et puis tu mènes l'enquête, tu vas au bout de l'enquête, tu tombes sur le peuple serpent et hop, tu reviens. Autant là, je suis pas sûr qu'ils expliquent vraiment de façon cohérente comment on se retrouve dans une époque autre. On fait plutôt un fondu en chaîne à Star Wars, quoi.
C'est une parenthèse temporelle, quoi. Enfin, pendant un moment, on accepte de jouer des personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale pour que c'est une sorte de comment dire de méta-message, de méta-message, c'est-à-dire que on va livrer aux joueurs quelques informations qui vont leur permettre de mieux comprendre l'intrigue, mais dont ils ne pourront pas se servir pour leur personnage.
T'as dû adorer Star Wars, toi.
Ben,
pendant ce temps, sur l'étoile de la mort.
Ouais.
Je sais qu'ils sont sur Tatooine.
Alors, visiblement, t'as peut-être jamais testé le truc. Comme je t'ai dit, je bosse sur une campagne où on a des épisodes comme ça, mais ça s'inscrit dans les thématiques. C'est bien. Comment dire, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe ou un rajout facultatif. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est un gars avec lequel j'écris la campagne qui m'a proposé. Et en fait, les joueurs étaient fin fous. Au début, ils ont rien capté, rien calé. Et finalement, ils ont adoré. Et on a notamment une époque Invictus. Enfin, j'ai même pas habité avant ça qu'Invictus existait, mais c'est un scénario qui se passe à l'époque romaine. Et c'est vrai qu'ils ont bien aimé. Par contre, le problème avec ces scénarios, et ça je le concède, c'est que ça peut essouffler une campagne quand il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans la trame principale ou quand on est dans un moment intense avec beaucoup de choses.
Et puis, surtout
je te conseille juste d'essayer pour une fois par curiosité.
Surtout que justement, pour abonder aussi dans ton sens par rapport à cette campagne, moi je pense que plus vite tu fais passer les épisodes, mieux c'est, parce que ça évite de voir trop les gros fils.
Et c'est pour ça que le format que tu as décrit, dans lequel vous jouiez de manière intensive, ça me semble valable pour cette campagne.
Bah nous, c'est super efficace. Hein.
Vous avez l'impression que ça a favorisé le truc ? Enfin, je sais pas, c'est quoi votre tour ?
Ben moi, il y avait cette pression artificielle qui s'est créée à cause du rythme déjà. Donc tu vois, il y avait vraiment l'impression d'avoir des étapes avec ces différents passages, ces différentes escales, entre guillemets. Donc le rythme était quasiment imposé par ça. Et en plus, ce qui lui aurait été demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la campagne, il proposait de faire un carnet qui devait retracer toutes les enquêtes pour justifier le fait que, comme elle est mortelle, il devait retransmettre ou laisser ce carnet à quelqu'un où il était découvert par quelqu'un qui était dans le train. Donc entre la rédaction du carnet au fur et à mesure des épisodes et les scénars qu'on faisait tous les jours, il n'y avait pas moyen de réfléchir, quoi. Donc tous les gros fils, ça a totalement disparu. Et puis c'était assez haletant, voilà. Donc on était vraiment sur un rythme, tu vois, de tambour battant. Et ça correspondait vraiment, tu vois, quand j'en parle, je vois encore, tu vois, les roues des trains qui sont à toute allure avec la vapeur qui sort, la fumée qui sort de la cheminée. Voilà, c'est vraiment ce que ça me redonne comme idée.
C'est peut-être le truc manquant, en fait. C'est peut-être avec cet ingrédient-là que tout le reste s'emboîte. Je sais pas.
Mais enfin, de toute façon, soyons clairs, ne la joue pas des sprites parce que tu seras vachement déçu. Enfin, de ce que j'ai bien compris, au-delà des excès de l'un ou des autres, tu la joues pas. Enfin, je le conseille. Après, tu peux la jouer si tu veux, mais moi, c'est une campagne qui, tu vois, c'est un peu comme, c'est ce que je voudrais faire sur Toc. Au bout d'un moment, c'est de dire telle chose, telle campagne, un tel l'a aimé, un tel l'a pas aimé, et voilà ce qu'il a aimé d'autres, voilà ce qu'il a pas aimé d'autres. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a plein de façons de jouer et de se dire bah si j'ai aimé par exemple les masques et que Vonville a aimé les masques, bah tiens je vais aller voir ce qu'il a aimé d'autre parce que c'est un peu alors c'est pas forcément dans le même style.
C'est pas mal.
C'est ce qu'il faisait dans Ciné Live par exemple.
Oui.
Où ils disent voilà moi j'ai aimé ça mais j'ai aussi aimé ça, comme ça donne un peu une idée et ça va au-delà du est-ce qu'il aime le narrativisme, est-ce qu'il aime le dirigisme, est-ce qu'il aime parce que, enfin, soit dit en passant, soyons clairs, moi je suis le premier dans tous les scénarios qu'on nous envoie sur Toc à gueuler sur le côté linéaire. Donc c'est vrai que c'est mais très honnêtement le côté vraiment onirisme de cette campagne. Je vois qu'apparemment ils ont rajouté des scénarios en plus dans les contrées du rêve. Ça ça peut être intéressant. Moi, je sais pas jouer dans les contrées du rêve perso. Là, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai un peu l'impression que les scénarios là sont vraiment catapultés, quoi. C'est-à-dire que on repart à zéro et on se catapulte dans une autre époque.
Ça fait vraiment peur plus de scénar, parce que je pense qu'à un moment la ficelle devient grosse quand même.
C'est ça le problème, mais c'est de se dire. Alors après, c'est peut-être que justement à la réécriture, les gens ont trouvé que c'était trop linéaire, et de se dire, on va essayer d'expliquer et donner du sens à certains trucs en faisant des scénars annexes dans le futur, dans le passé, pour expliquer des choses. C'est peut-être l'idée qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, ça me semble bizarre comme approche. Faudra juger sur pièce. Mais je vois pas comment est-ce que on fait de quelque chose de droit un enchevêtrement complexe avec des rajouts, tu vois.
Ouais, et puis il faut l'assumer, quoi. Je veux dire, ça fait partie du parti pris de la campagne.
J'aurais plutôt assumé dans ce cas-là pleinement la linéarité, mais peut-être gommer les moments où le dirigisme est trop important.
Est flagrant.
Ouais, et un peu baisser les scripts aussi, les rendre moins longs ou moins nombreux. Je pense notamment ce passage avec la contrée des rêves, où chaque fois qu'on tombe dans un endroit, on assiste à une nouvelle scène, comme à Euro Disney. Tu
sais. Ça, j'ai un peu peur que ça rajoute pas vraiment à ce qui faisait finalement l'élément fondateur de la campagne à l'origine, quoi. Donc je sais pas trop. Là, je le parcours un peu, mais ça fait un peu rajout pour faire de la page, quoi.
En fait, je me demande s'il aurait pas fallu l'alléger.
Peut-être.
Tu vois, virer par exemple le scénario amoureux à Venise, faire plus de trucs facultatifs, et peut-être donner une réelle impression, une impulsion sur le péchu. Tu vois, pour que ce que vous avez fait peut-être intuitivement, le côté tambour battant, qu'on le formalise plus, qu'on l'écrive plus, qu'on dise allez-y, le train siffle, les joueurs régulièrement ont peur de manquer le train quand il démarre, les joueurs passent pas 10 ans dans les bibliothèques, on trouve d'autres moyens pour leur filer les infos.
Soyons très honnêtes, vu qu'il y a quand même 700 pages de campagne, peut-être que les trucs que toi, si, au total, sans les aides de jeu,
ils ont triplé.
Je crois, ouais. Sachant que toi ou Dark Keeper, si vous manque peut-être des alternatives, peut-être qu'elles sont dans cette version-là. Peut-être que dans cette version, je l'ai pas lu, hein, parce que c'est un peu long, j'ai pas que ça à foutre. Et le truc, c'est que peut-être qu'il y a plus d'explications et peut-être plus d'alternatives, l'avenir nous le dira. Mais j'ai un peu peur que ce soit juste du descriptif et puis des. Par contre, c'est vrai que la maquette est. Bon, c'est la maquette classique de Sans Détour, mais les illustrations sont assez top. Je crois même que ça fait en tout scénar, mais ça fait un paquet de scénarios au total. Bon, surtout, je suis honnête, je suis assez d'accord avec toi, Desprez, c'est que les campagnes tiennent. Enfin, ça, c'est une vision personnelle de joueur un peu, je dirais, standard comme je suis, mais les campagnes qui tiennent vraiment sur la grosse, grosse longueur, elles sont très rares.
Ouais.
Et des campagnes qui vraiment vont tenir sur des dizaines d'heures. Sauf de les jouer comme D-Fox, où moi je les jouais quand j'étais étudiant, c'est d'ailleurs, allez, on se fait un marathon 48 heures, on bouffe que des pizzas et puis on fonce. Ouais, à notre époque, tenir en haleine des joueurs, vous allez peut-être me rétorquer que des campagnes ouvertes comme celle de Trail of Cthulhu et tout ça, ou tu sais, c'est que tu avais décrit des sprites, peuvent peut-être tenir sur des dizaines d'heures, je sais pas, je les ai pas joués, mais un scénario écrit de façon structurée, comme on peut en parler là, de façon linéaire, des dizaines d'heures.
Je pense qu'il faut un fil rouge efficace, il faut un truc qui intrigue les joueurs et qui les pousse à poursuivre, quoi. C'est-à-dire que je recherche une pièce du simulacre, d'accord, mais je veux dire, personnellement, tu me feras
un mec empoisonné TV, quoi. Un mec empoisonné, il lui reste 25 jours à vivre. Ils doivent absolument arriver à la fin avant les 25 jours. Tu sais, un countdown, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais. C'est pas mal ça. Ouais.
Mais ça le problème, c'est que dès le début, ça ferait trop tôt. Dès le début, ça ferait trop tôt, parce que moi, je me rappelle, si tu joues les masques et si tu as quelqu'un qui est un petit peu branché astronomie, comme il peut aller voir les différents trucs, il peut aller voir que la prochaine éclipse, alors ok, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, Mais il peut tout à fait se dire que la prochaine éclipse, parce que normalement dans les masques, la fin c'est censé être autour d'une éclipse,
ouais.
Il peut se dire, putain, la prochaine éclipse, il va se passer un truc. Donc le truc du compte à rebours, moi je l'ai déjà testé, ça marche hyper bien sur des scénars courts. Sur des scénars longs, au bout d'un moment, est-ce que les joueurs vont pas se dire, bon, bon on va te tuer maintenant, hein, comme ça tu vas moins souffrir. Mais au moins ça va nous laisser du temps. Ce que je veux dire, c'est que par contre, je suis assez d'accord avec vous, mais pour faire durer dans ces cas-là, il faudrait qu'il y ait qu'il rajoute par exemple des faux éléments du simulacre, par exemple, je sais pas, la fraternité de la chair en a trouvé, les a reproduits, et au fur et à mesure les switch. Que à la fin, tu laisses les joueurs galérer à essayer de se planquer, à perdre leur santé mentale, à faire le sort, et puis à s'apercevoir que finalement c'est du toc, leur truc, c'est la pâte à modeler, quoi. Mais pour moi, le faire durer plus longtemps avec cette intrigue-là, c'est sans rajouter de choses, c'est difficile et
risqué.
Voilà, et c'est un peu ce que fait Sans Détour sur certains scénarios. Et autant pour la partie Australie, j'ai pas eu l'impression qu'on l'ait fait, autant pour d'autres parties, j'ai eu un peu l'impression qu'on l'ait fait pour les masques, c'est-à-dire il y avait de la sauce et finalement ben, on l'a battu, donc il y a des petites bulles d'air dedans, donc ça fait plus de volume visuellement, mais en réalité il y a toujours autant de sauce, quoi. Et si ça retombe, bah ben, finalement t'as toujours la même matière, donc c'est un peu faux. C'est un peu du scénar additionnel pour le scénar additionnel, et pas un scénar qui finalement décuple la campagne ou en fait une aventure vraiment terrible. Donc j'ai un peu peur de ça maintenant.
Ouais. Et puis aussi, en fait, ces rajouts, d'après ce que je comprends, c'est des scénars en plus. Visiblement, quand tu fais les scénars en plus, ton objectif, enfin, tu peux avoir plus d'objectifs. Pour là, j'imagine que c'est pour mieux comprendre ce qui se passe ou pour mieux insister sur l'importance de certaines choses ou certaines personnes. Je suis pas certain que ça soit comment dire. On est en train d'arroser les plantes alors qu'il y a le feu dans la baraque. Je suis pas certain que le problème ça soit que les gens comprennent mal ce qui se passe, parce que d'après ce que tu décris, cette perte de pied dans l'onirisme et la réalité qui semble petit à petit se désagréger, c'est vachement intéressant. Donc si tu expliques ce qui est en train de se désagréger et ce qui est de plus en plus flou, tu perds en qualité. Je pense qu'ils auraient mieux fait de s'attacher à des défauts plus évidents, enfin en tout cas je parle pour mon église, plutôt que de rallonger la sauce et d'essayer de mieux expliquer.
Et surtout le gros problème qui est lié à ce que tu viens de dire, que je te déconseille encore plus de faire cette campagne, sachant les joueurs que tu m'as décrit que tu es en face de toi, parce que il faut des joueurs qui réfléchissent pas vraiment trop.
Faut être un peu c'est foutu.
Faut être un peu con-con. C'est-à-dire que si vraiment tu réfléchis, au bout d'un moment, tu vas dire, mais attends, putain, on va le désosser, cet Orient Express. On va partir de la locomotive, on va aller au cul, et on va faire cabine après cabine.
Tout à fait.
Et s'il y a un problème, on va le savoir. Tu vois, tes joueurs, je pense qu'ils seraient capables de faire ça au bout d'un moment. Mais ça y est, sur le coup, nous, pris dans l'onirisme, dans le machin, dans le côté peut-être qu'on accepte la linéarité, on s'est jamais posé la question et on s'est retrouvé comme des cons en disant à la fin, oh putain, le salopard, il était déjà à l'intérieur du train, on l'a même pas vu. Et on s'est fait gauler comme des Mickey.
Et donc, je suis sûr que le rythme a favorisé ça aussi.
Exactement.
Vous étiez pas bebeux, je pense que vous étiez tenu en haleine et vous aviez pas le temps de faire 10 000 suppositions, non, Fox?
Moi ça a été le cas pour mon groupe, hein. Ça a été clairement ça.
Nous on aurait pu réfléchir. Et le truc en plus, c'est que je pense que ces scénars extérieurs qui finalement vous mettent le focus sur ces defcars, Mehmet Makriat qui est le grand méchant, vont finalement te plus faire réfléchir les joueurs, et je trouve que c'est encore plus
retomber
risqué.
La sauce.
Oui, puis c'est encore plus risqué parce qu'ils vont prendre du recul.
Ils vont cogiter.
Voilà.
Ouais.
Ils vont se dire, mais c'est bizarre, on a toujours l'impression qu'il est un peu devant nous. Il était en train, et là, putain, là. Je suis d'accord avec toi, Desprite, c'est que là, dans le scénario, je crois pas que ce soit mis. Comment s'en sortir s'ils essaient de chercher les morceaux dans le train? Et c'est con parce que après, tu peux toujours trouver des artifices tout pourris pour dire le wagon est pas là et tout ça, mais c'est le rythme joue beaucoup, comme disait Fox, et finalement sa façon de le jouer, ou c'est pas la façon idéale, mais je pense que c'est quand même une très bonne façon, du fait que ben c'est ça, plus tu vas vite, on le voit quand on regarde sur le bord de la route quand on est en voiture, Si on regarde bien, on va voir des poteaux télégraphiques et un fil. Mais au bout d'un moment, si on regarde juste le fil, on ne voit plus les poteaux télégraphiques. Donc, avec la vitesse, finalement, on ne verra pas les passages de scénar en scénar un peu moche, peut-être, un peu poussif. Si on a un rythme qui est assez rapide pour se dire, ah putain, c'est l'Orient Express, ça fonce. Et c'est vrai que moi, je me rappelle que quand on l'avait joué, on avait toujours l'impression que quand on allait retrouver l'Orient Express, il était à deux doigts de se barrer. Alors c'est complètement faux, parce que si on avait été boire un café, le MJ leur a dit, bon, ok, il fait chouchou, mais c'est juste pour essayer le chouchou. Et une heure plus tard, il part avec vous. Mais c'est vrai, sur le coup, t'as cette impression-là, tu te dis, ah putain, vite, dépêchons-nous. Et en plus, ce que je disais au début, il y a aussi l'impression qu'on essaie de te donner que l'Orient Express, finalement, c'est un. Comme il permet de fuir à chaque fois, chaque endroit, c'est un peu un refuge. Je me rappelle la première, enfin, un des scénars quand on se fait poursuivre là, par la maison de Baba Yaga. On était en train de prendre genre un brandy dans un salon, dans un des wagons. Et quand on a vu le truc nous poursuivre, on s'est dit putain. On n'est même pas à l'abri là-dedans, quoi. Et franchement, on avait flippé notre race, qu'on s'est dit, parce que bah, c'est un peu ta maison après l'Orient Express, quoi. T'as ta cabine, t'as ton conducteur qui est dans chaque wagon, qui est là pour faire tout ce que tu veux. Enfin bon. Et puis, il faut le savoir, c'est que le scénario lui-même, c'est un scénario pour fils à papa, quoi. C'est-à-dire que on va jamais trop étudier le fait que tu puisses aller voir les gens, aller discuter avec les pouilleux, quoi. Et tu bouffes dans des endroits classe, tu discutes avec des gens classe, tu discutes avec des célébrités.
Mais oui, ça, je me demande si c'est
C'est.
pas une histoire de couleur en fait. Je veux dire, par exemple, si vous voulez jouer un scénario du mythe de Cthulhu dans les hautes instances du gouvernement, eh ben faut le dire dès le début, ça va se passer à tel endroit où, pour des raisons de crédibilité, il faudrait que vous ayez une raison d'y être.
Exactement. Enfin, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire on va un peu guider la création des personnages pour qu'ils aient. Enfin voilà, faut pas que ce soit un péquenaud qui se retrouve dans l'Orient Express, qui va mettre ses pieds sur les banquettes, qui va coller ses crottes de nez sous la table, quoi. Enfin,
C'est
nous,
ça,
je me
quoi.
rappelle quand on l'avait joué, dans le cadre de la campagne, c'est pas forcément ce qu'on jouait à chaque fois comme personnage, mais on avait pris des personnages assez classe, qui vont pas avoir de Thompson, qui vont pas être forcément armés, et qui vont peut-être avoir des réflexes mondains, plutôt que des réflexes à la Agatha Christie ou à l'Appel au Cthulhu, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je me rappelle que ça avait assez bien marché. Quand on était arrivé à la Scala de Milan, on était content de visiter la Scala pour la Scala, mais pas pour l'enquête, quoi. On était là, oh, formidable, ah, mais regardez, tout ça. Puis là, il y avait le MJ qui nous disait, non, mais on avance là. Parce que, voilà, c'est vrai que les personnages sont. Je me demande s'ils vous filent pas des prêts tirés. Plus trop si je crois qu'il y a des prêts tirés, ils ont fait
Dans la
des prêts
nouvelle
tirés.
édition?
Ouais, je crois qu'ils ont fait des prêts tirés suite au Kickstarter. Il y a plein de gens qui ont donné plein d'argent. Et ben ils ont dit, comme t'es gentil, t'as plein d'argent, je vais faire des prêts tirés.
Version américaine?
Je sais plus.
Parce que dans la version
Je.
américaine, des goodies, il y a tout et n'importe quoi en passant des mugs, des t-shirts, des miniatures, des passeports, qu'est-ce qu'il y a encore?
Des casquettes, non,
Des
comme valise,
médaillons,
valise.
ouais. Il y a un roman,
Des
il y
slips.
a Dining Car Kit, ce qui doit être, je pense, je sais pas, un plateau pour manger, non,
Bah je sais qu'il y en avait qui voulaient ouais, qui recherchaient des aides de jeu toutes pourries, ouais. Et alors, ce qui rajoute aussi un truc, je sais pas si ça y est dans la première édition, mais moi je déteste les bons sentiments. Et le gros problème du Kickstarter, c'est qu'au début des Kickstarter, les gens ont tendance à remercier tous ceux qui ont participé à la campagne. Et je crois que ça dure environ 5 ou 6 pages.
Ah putain,
Donc
trop dur.
ils remercient celui qui a acheté le lait, celui qui a acheté les cookies, celui qui a inventé le cookie, celui qui a inventé le four, celui qui a trouvé le feu la première fois, celui qui a tapé sur le mec parce que la première fois pour choper le feu au premier mec.
Putain, renvoyez-moi dans le passé, mais.
Non mais ne parlons pas de celui qui a trouvé comment on obtenait du lait avant.
Et alors, ils sous-tendent derrière que il y a une partie qui inclut les grandes nouveautés de la 7e édition des règles de l'appel au Toulouse. Notamment deux, trois trucs, notamment la possibilité de modifier les tests de compétences ou en investissant de la volonté, des choses comme ça. Enfin,
Putain.
il y a quelques rajouts un peu bizarroïdes. Et puis comme mais bon, ça, paix à son âme, Lynn Willis, je crois que c'est lui, hein, est mort un peu autour de. Ouais, c'est ça. Un peu autour de la période, et qu'il avait retravaillé sur le Quest Actor, je crois qu'ils l'ont, ils le remercient, et puis ouais, c'est ça, il est mort en 2013, donc c'est dédié à sa mémoire. C'est ce qui est normal, mais le problème, c'est que les remerciements, mais ça dure des plombasses de plombasses. Mais en même temps, les gens qui ont participé au Quest Actor sont contents parce que leur nom apparaît dedans. Ça,
Ouais. Un
c'est
trip
un
de
peu normal.
collectionneur, ça.
Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres pans de la campagne à regarder? Je réfléchis. Il y a des illustrations qu'ils ont gardées dans la version là, de Sans Détour qui sont assez bizarres. Notamment, il y avait des espèces de dessins un peu pourris de la locomotive, de l'intérieur de la locomotive.
Ah oui, celle qui est au début de la campagne.
Ben voilà, il y a pareil dans celle de Sans Détour. Donc, pour une campagne à 109 euros, c'est un peu bizarre.
Ils auraient pu prendre une photographie, quoi.
Ouais, et puis ouais, c'est ça. Et puis pour certaines illustrations de personnages de PNJ, comme c'est rajouté de la version américaine, je pense qu'ils ont repris les illustrations d'origine, alors que je trouve que d'habitude enfin Sans Détour fait du super boulot avec les photos les photos d'époque. Donc il y a certains trucs, ça fait un petit peu Ça fait un petit peu, je trouve, comme ce qu'il y avait dans Delta Green quand ils ont essayé de le mettre au goût du jour. Ça fait un peu
Ouais.
rajout de dernière minute. On a mis un scotch et puis on vous rajoute 3 pages. Donc ça ne dérange pas en soi, mais dans une campagne à 109 euros, si. Soyons honnêtes, si. Donc voilà un peu. Je sais pas si vous avez d'autres sujets à aborder sur la campagne.
Moi, il y avait un petit truc, mais je sais pas si d'autres ont plus
Ah,
intéressant à proposer. C'était sur les contrées du rêve. Vous avez d'autres trucs?
Shining nous demande, est-ce que dans cette campagne il y a moyen de placer un traître parmi les joueurs?
Alors, oui, je te dirais que toujours, ça peut tout à fait être faisable. Alors, dans ces cas-là, pour éviter les trucs à la Scooby-Doo, les trucs à la Mission Impossible, où le mec retire 4 masques l'un après l'autre, tu sais plus qui il est, le mieux, ça serait de faire un allié, de créer un allié du grand méchant de la Grande Jungle.
Ouais, après le mec, s'il arrive à tenir toute la campagne jusqu'à la fin, il se fait étriper,
Oui. Physiquement. Le
Ouais.
joueur, le joueur.
Ouais.
Ouais. C'est toujours pour le mec, les traîtres. C'est que les joueurs ont tendance à mal le prendre.
Ouais, mais
Par contre, c'est.
vu la campagne, est-ce qu'il y a besoin de mettre un traître dans ce genre de campagne?
Non,
Je
je
pense
pense
pas.
pas.
Ouais.
Pour moi, c'est un
Moi,
peu
c'est déjà
chaud.
assez.
Je
Je
pense que je ferais pas jouer.
pense que ce serait trop. Ouais, ce serait un peu délicat.
Et non, et puis à mon avis, si le mec arrive vend trop vite la mèche, ça casse la fin.
Oui.
Ouais, puis lui, enfin, il va peut-être s'amuser au début, mais je suis pas sûr que tu t'amuses sur toute une campagne à chercher tes
Être un
joueurs, quoi.
traître, ouais.
Je sais pas. Je suis pas pour. À voir maintenant si dans tes équipes Shining, t'as toujours le mec qui veut être le traître.
Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, les autres joueurs le connaissent, donc ça ne marche pas de 36 fois. Hein.
Voilà, ils lui font plus confiance, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? J'ai pas regardé. Canning, il en posait d'autres sur le. Ok.
Ouais, bon, il a parlé de la grande chasse, hein. Je dis ça, je dis rien.
Oh, la balance! La balance!
Ouais, c'est vrai,
Putain, c'était où
hein. 23h35.
Ah oui!
Merci, Shining.
Donc, tu voulais parler des contrées du rêve, c'est ça, des sprites?
Ouais, en fait, je voulais avoir votre impression sur les contrées du rêve. Je vous explique. J'ai l'impression que la présentation des contrées du rêve dans l'Orient Express est vraiment différente de celle auxquelles on est habitué. Quand je parle contrées des rêves, en général, je vois des espaces très vastes qui communiquent avec plein d'autres endroits. J'avais plutôt l'impression que dans l'Orient Express, c'était des sortes de bulles de contrées du rêve. Vous en pensez quoi?
Bah oui, parce que t'as Lausanne par exemple, c'est pas du tout, c'est plutôt effectivement un milieu onirique qui est en dehors des contrées du rêve habituellement créées par Lovecraft. Ce qui ressort encore plus cet aspect, c'est pas du tout Lovecraftien cette campagne.
Ouais,
Ouais.
je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai que tes sprites, t'as raison, c'est que plus que... Enfin, ils ont appelé ça les contrées du rêve parce qu'on vit dans un rêve, mais c'est plus en effet des réalités alternatives oniriques, quoi.
Ouais,
C'est-à-dire
c'est ça.
que,
C'est
voilà,
pas
c'est
vraiment le monde
plus...
des rêves stricto sensu.
Non, puis on ne te demande pas de passer par les différentes étapes du rêve et tout ça. T'y arrives comme ça, quoi. C'est juste l'influence
D'accord.
de Fenalik et du grand méchant qui est dans le train qui fait que tu switches.
Mais il y a un truc encore. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas balancé, donc je vais y remettre un petit coup quand même.
Parce qu'on
Je
a
veux pas me
presque l'impression
fatiguer.
que tu on a presque l'impression que tu l'aimes bien là, cette campagne.
Ah
Ouais, c'est
non, c'est
vrai.
toujours une ville saloperie mal construite qui gagnerait à être répondue en recueil de scénario. Mais non, je voulais parler en fait la première fois. Moi, je trouvais que c'était très mal amené la première fois que les contrées du rêve déboulent. C'est quand il tombe sur ce gars inconscient avec des piqûres au bras et de la drogue en fait qui permet aux gens d'aller dans les contrées du rêve. En fait, le gars a un journal avec lui ou des notes dans lesquelles il laisse comprendre aux gens. C'est une aide, comment dire, c'est un journal auquel il est fait référence, mais ce n'est pas une aide de jeu. Donc c'est au MJ de décrire les choses. Et en gros, dans les aides de jeu, on fait comprendre que quand il se fait des picouzes, il voit des trucs dans un autre monde et tout, voilà. Et on laisse les joueurs là-dessus. Et le postulat qui suit, c'est une fois que les joueurs ont pris la drogue, qu'ils l'aient gobée, sniffée, injectée, n'importe quoi, ils se retrouvent dans les contrées du rêve. Moi, ma question, enfin, je crois que c'était mal amené. Je me souviens que quand j'avais joué dans une autre campagne, enfin, le Rejeton d'Azathoth, à un moment, il y a un truc similaire. Je jouais un personnage. Et j'étais plutôt cartésien. Pour moi, c'est des conneries. Il était hors de question que je m'injecte ou que je sniffe ou que je boive quoi que ce soit. S'il y a un risque que ça soit du poison. Et en plus, dans la manière dont on en parle dans l'Orient Express, limite on cite les contrées du rêve. Je trouve que c'est mal amené, quoi.
Bon, ça c'est. Je m'en souviens pas pendant la période de jeu, mais quand je l'avais joué. Et je me souviens pas qu'on se soit injecté quelque chose. Alors je sais pas si c'était démarré autrement en nous faisant boire du thé ou un truc à la con. Mais le fait est que enfin, c'est le côté contré du rêve. Nous, le gardien ne les avait jamais cités. Il nous avait jamais dit vous passez dans les contrées du rêve. On était dans la Lausanne des rêves, dans la machin des rêves. On n'était jamais entré dans les contrées du rêve. Et
Ouais, finaux, quoi.
puis parce qu'en plus les contrées du rêve, moi j'aime pas du tout. Il y a le côté un peu médiéval, arabisant, enfin exotique. Je trouve ça tout pourri. Et c'est vrai que je me souviens que les périodes de rêve avaient été vraiment sympas parce que c'était une réalité alternative. Mais alors le coup des piqûres, c'est ouf. Ça me rappelle rien. Mais ça,
C'est
c'est
vers
pas
le
terrible.
début, je vais essayer de te le trouver. Je me demande si c'est pas à Lausanne. Je cherche.
Ouais, bah c'est vrai, dans ce cadre-là. Enfin, alors, je sais pas, pour les gens qui aiment les contrées du rêve, ils ont peut-être des moyens super intéressants de les amener. Mais à part faire dodo, moi je vois pas trop les façons fertiles. Ou alors, si on joue une bande de camés, ou si on va dans une fumerie d'opium pour enquêter, ou un truc comme ça, quoi. Quelque chose qui t'oblige de façon scénaristique à te confronté à une drogue, mais enfin c'est parce que moi par exemple c'est le genre de truc aussi que je déteste, c'est voilà on te donne une bagouze et t'es censé la mettre à ton doigt. Ah non, moi dans un
Ouais.
scénario si je trouve une bagouze je vais jamais la mettre à
Bah, c'est clair.
mon doigt. Alors dans ces cas-là c'est tout bête, il suffit que le MJ soit un peu subtil et il suffit que ce soit juste le contact. Parce que dans ces cas-là, si tu veux pas la porter à ton doigt, tu la mets dans ta poche ou tu vas l'accrocher à une chaîne, tu la mets autour de ton cou, encore pire, ou un truc comme
Ouais.
ça, quoi.
Alors,
Mais.
pour revenir à la question, c'était page 65. Prendre un peu de drogue. C'est pas très long, je vous lis. Le journal explique clairement que pour récupérer le parchemin de la tête, il n'existe qu'un seul moyen, suivre Edgar, encore une fois, un seul moyen, suivre Edgar Wellington dans la Lausanne du rêve en prenant un peu de drogue. Celle-ci peut être administrée par n'importe quel moyen. On peut l'avaler, se l'injecter, se la piquer sur la peau, se la sniffer, se la mettre en suppos.
Ouais, effectivement.
Non, c'était pas marqué, mais
Vu
le début, oui.
comment c'est écrit, je pense qu'on a dû le faire. Hein. Je suis désolé de te le dire encore, mais
En suppos?
vu que c'est mis dans le scénario et qu'il y avait une aide de jeu qui disait pour le rejoindre, il faut prendre la drogue. Je pense qu'on a dû le faire. Je suis désolé. Nous on est comme ça, nous. Les scénarios sont d'une succession de pancartes. Mais après, je dirais, si vraiment tu as compris que le scénario c'était retrouver des éléments et qu'un des éléments on te dit explicitement, ben, le seul moyen de le retrouver c'est pour y aller, moi j'irai. Si vraiment il faut.
Ouais, d'accord, mais enfin, tu vois, c'est mal amené, quoi. Ça aurait pu être vachement plus, je sais pas, la Lausanne du
Là,
rêve.
c'est vrai que c'est le premier.
Tech de Red Pill, quoi.
Le problème, c'est que quand tu le lis, c'est mal amené. Mais comme on a dit depuis le début de ce podcast,
Je peux l'adapter.
ça peut être très très bien.
Ah, moi, ils ont même été pires parce que j'avais fait une sorte de flacon où j'avais mélangé des trucs dégueulasses.
Oh
Je leur avais dit, vous devez en prendre une goutte. Bah, ils l'ont fait, hein.
Mais dans la vraie vie, c'est ça? Ah, la saloperie.
Puis finalement, ça peut être une bonne solution avec des joueurs un peu genre, ah ouais, moi j'ai la plus grosse. Tu les obliges à faire une connerie, et comme ça tu masques derrière le côté linéaire.
Et bah, ça
Pas
a marché. Et ils s'en rappellent encore.
il est vrai, hein, pour Dark Keeper et Death Sprite, voilà, ce genre d'idée, on pourrait tout à fait le noter en une phrase. Mais bah voilà, il faut l'avoir fait jouer, il faut. Enfin voilà, le problème, c'est que
Oh, le terrain glissant là.
Ouais, je suis d'accord.
la réécriture du truc, soit on prend des expériences et on met des anecdotes pour essayer d'expliquer des façons alternatives, mais dans ces cas-là, il faut vachement se reposer sur des façons d'avoir joué le truc. C'est
Ouais, mais
comme ça que
alors,
c'est.
tu sais, bon, il y avait un truc qui était pas mal justement. Moi, c'était un truc que j'avais loué, c'était dans le Royaume des Ombres. Il y avait ces retours de partie, parce que des fois, dans le Royaume des Ombres, pareil, c'était des fois un peu difficile de voir comment arriver à un point B. Et il disait, voilà, avec les testeurs, des fois, c'est arrivé ça, ou à l'inverse, c'est arrivé ça, et voilà comment on s'en est sorti. Je sais pas si vous vous rappelez de ça
Si,
dans ce
si, je me
supplément.
souviens bien. Ouais.
Et ça, c'était bon, par exemple.
Très bien.
Ça pourrait être l'idée. Et c'est vrai que par exemple, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire sur les masques de Nyarlathotep. Dans la réécriture qu'on a fait avec
Ouais,
Sandutour,
sur
c'était.
certains
Alors,
passages. Ouais.
on a peut-être pas réussi à chaque fois, mais sur certains passages, c'est ce qu'on se disait. On se disait, voilà. Et
La maison de Miss,
si. Voilà, exactement. Et si, comme moi, je l'ai fait. Comme moi, ça s'est passé pendant la fin. Une fois où je l'ai fait jouer, il vous arrive ça. Alors, une alternative, c'est ça. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que cette campagne passe de bonne campagne à horreur sans nom linéaire, du fait qu'il vous manque ça à vous, des maîtres tels que Dark Keeper ou Death Sprite. C'est
c'est
dommage
dommage
que
que
ce
ce manque.
manque-là, vous enlève tout le potentiel à côté, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord. Moi, le premier, si on me met des trucs alternatifs, si j'en trouve un cool, je vais dire putain, il faut absolument que je leur fasse enfin que je les amène discrètement à cette solution-là parce que je la trouve démente. Et j'aurais été le premier à aimer, mais j'ai pas l'impression en plus que dans la version V7, enfin dans la version sans détour, on vous donne beaucoup beaucoup de pistes comme ça, d'alternatives, et j'ai beau me parcourir, j'ai pas l'impression. Balade, ouais, pouf pouf.
C'est une belle conclusion, ça.
Je crois que c'est pas mal parce qu'il est quand même 23h53.
Non,
Putain, tout le monde va s'être endormi devant le podcast. Enfin, derrière le
non.
podcast.
Non, mais c'est vrai que tu as raison. Bon, là, sur ce côté-là, tu peux t'adapter. T'es pas obligé d'être fermé. Mais c'est vrai que c'est mal écrit, quoi. On va dire que c'est mal amené. Voilà.
Et puis pour certains, il manquera des alternatives qui pourraient être écrites, peut-être de façon succincte. Mais voilà, d'un côté il y a ce manque-là, mais de l'autre côté il y a un potentiel d'onirisme et d'aventure qui est vraiment, enfin pour moi qui, même s'il manque ça, il faut le faire quand même, au moins le tester, quoi. Mais
Ouais.
je sais que vous, de votre côté, les détracteurs, vous direz, ce manque-là fait que c'est rédhibitoire, quoi.
Bah, c'est comme un excellent cookie au nappage merde, tu vois. Oublie la merde, le cookie à l'intérieur est super bon. Ouais, enfin, ça me
Il nous a
pose un peu
encore
problème,
sorti
quoi.
le coup.
Ah non, avant c'était le hachis parmentier au caca, maintenant c'est
Ah
le
oui, c'est
cookie au nappage
vrai,
merde.
oui.
Les cookies,
Ouais.
c'est nul.
Non.
Hein.
Non, mais
Ouais, non.
après, je veux dire, bon, on peut bosser la campagne, je veux dire, on peut la faire jouer, il n'y a pas de souci. Mais sans cela, ça va peut-être demander plus d'efforts, ça va demander donc à nous de trouver des solutions alternatives, tandis que quand
Ah
on
oui,
nous les
c'est clair.
fournit, ça permet de, bah,
c'est plus à l'aise à la lecture. Et tout à l'heure, vous disiez que l'Orient Express est une bonne campagne pour les débutants.
Ah non, 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 non. Pas fait pour les débutants. Hein.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Pareil.
Je trouve que c'est peut-être. Au contraire, les débutants, ils auront besoin de plus de pistes pour qu'ils puissent se retrouver plus facilement sur leurs pieds en cas de réaction.
Non, mais même pour réagir, pour savoir comment réagir. Là, tout à l'heure, vous parliez de la boutique de taxidermie. Là, ben là j'étais en train de relire, là, c'est page 64, hein, ça tient trois lignes. Si les investigateurs retournent voir Wellington, ils trouvent la boutique fermée et une pancarte fermée sur la porte. Il y a trop de passants et d'enfants pour revenir à l'école pour qu'ils fassent l'effraction. C'est clair que suivant les joueurs que tu as...
Tu reviens de nuit.
Voilà, tu peux t'adapter.
Tu fais une diversion dans la rue.
Tout à fait.
Sauf si tu
passes par derrière.
Le truc, c'est qu'il y a débutants comme gardiens et débutants comme joueurs. Pour moi, c'est très bien pour un gardien débutant s'il a des joueurs débutants.
Bah, il faudrait qu'il soit talentueux, quoi. Je veux dire, il est talentueux et débutant avec des joueurs débutants, ils vont probablement s'éclater. Mais là, on revient encore à la critique des pratiques. Tu vois, et on spécule sur des pratiques. Comment expliquer à des joueurs, tiens, toi t'es MJ, t'es débutant, mais s'il se trouve que t'as du talent et tu le découvriras en jouant cette campagne, voilà. Mais il est aussi possible que tu te fâches irrémédiablement avec tes joueurs parce qu'ils vont être écœurés du dirigisme de la campagne, pensant que c'est toi qui es un MJ dirigiste, et tu vas leur saboter leur trip, ils voyaient des choses à la Agatha Christie, voilà, puis tu leur as servi du piège à rat et des cookies n'a pas géré.
Dans cette idée-là des sprites, est-ce que pour toi l'affaire Armitage, ça peut être conseillé à des débutants?
Pas du tout. Pas du tout, sauf si c'est des gens qui ont des prédispositions. Attends. Sauf si ce sont des gens qui ont des prédispositions en matière d'improvisation et qui se sentent pas noyés sur des choses qui sont un peu floues. Voilà, si par exemple t'as adoré Lost et que tu t'es pas senti complètement perdu, ou si t'aimes les films de David Lynch. Ou si tu fais du théâtre d'impro, alors je te dirais, vas-y,
attends, jette-toi attends, 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 et je terminerai par, et si tu lis Télérama? Excuse-moi. on en arrive à la conclusion, c'est très bien, tu m'as tout à fait amené là où je voulais arriver, c'est que, on arrive à l'élitisme en jeu de rôle.
Non.
Moi, je pense juste que l'Orient Express...
Mais attends, être débutant, c'est pas être une merde.
Le problème, c'est que quand t'es débutant, t'es pas conscient de tes capacités.
Je pense que
l'Orient Express et que l'affaire Armitage, c'est deux extrêmes différents.
Mais complètement.
Il faut savoir faire le geste mieux.
Il faut savoir jouer les deux, d'ailleurs.
C'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est quand même beaucoup plus abordable, Terreur sur Orient Express.
Oui, pour toi.
Et vous trouvez que c'est plus abordable pour un débutant, l'affaire Armitage?
L'affaire Armitage, Mais t'es pas un débutant, donc.
Non, mais je parle de débutant, pour un débutant. Un mec qui connaît rien au jeu de rôle, un mec qui connaît rien du tout au jeu de rôle, honnêtement. Tu vois l'épaisseur des volumes, tu recompares, je peux comprendre qu'il préfère le petit bouquin de l'affaire Armitage.
Et entre nous, l'affaire Armitage te prend énormément par la main, je le rappelle. Hein. Sur chaque chapitre, ils te font des suggestions, et même, souviens-toi, ils te proposent une trame relativement linéaire que tu peux suivre si tu te sens pas à l'aise avec l'impro. Et chaque personne, chaque chapitre, chaque objet, ils te proposent des solutions pour l'utiliser. Alors, je conseillerais pas cette campagne à des débutants, bien évidemment, je suis pas SM, hein. Je suis pas élitiste du tout. Si j'ai affaire à un MJ débutant, je lui conseille une campagne beaucoup plus à sa portée, genre les ombres, éventuellement Azathoth. Non, mais c'est vrai.
Non, même déjà un débutant, tu lui conseilles pas de commencer par une campagne. Il fait d'abord scénarisation, il va pas se lancer dans une campagne.
C'est vrai, t'as raison. Et c'est avec un débutant en campagne, quoi.
Bon. Sur ces bonnes paroles et sur ces petites remarques d'élitisme.
Nous allons donc conclure sur une note de mauvaise foi. allez voir la critique que Von va laisser sur le grog, vous comprendrez pourquoi il termine comme ça.
Ah oui, c'est lui qui a dit c'est onirique ou un truc comme ça, non?
Il a mis la meilleure note.
Ah oui.
C'est pour terreur.
Cette titanesque campagne est à mon avis un chef-d'œuvre à élever au rang des masques.
C'est clair. Ouais.
Complètement différente, elle met l'accent sur les ambiances, dans le train de luxe, dans chacune des villes, dans des moments de délire.
Ouais, moi aussi.
Alors là, je pense que tu parlais du caméléon chanteur, de la maison marchante, l'arracheur d'œil Kill Bill, quoi.
Ce qui est assez marrant, c'est que contrairement à vous, qui, je pense, devez renier vos anciens amours quand vous étiez petit avec des pièces aux genoux, moi, je trouve que ma critique, je l'assume tout à fait. Je trouve que ça fait partie des monuments et personnellement, dans les campagnes que j'ai jouées, c'est un des tops, quoi. Tout à fait. Je reste tout à fait sur ma description, hein. C'est le pire.
À la hauteur des masques, je lis bien et tu confirmes.
Je dirais même qu'elle est peut-être même meilleure. Waouh. Parce que tenir...
C'est dans la boîte.
Tenir la montée en puissance dans les masques, alors que comme disait Fox, ou je sais plus trop qui, il y a un climax à la fin de chaque scénar. Finalement, tu retombes, tu repars. Alors que dans Terreur, t'as une vraie linéarité de progression.
Mais tu n'es pas obligé de faire tous les climax dans tous les chapitres, et c'était bien précisé dans la première édition, et ça allait bien repréciser dans celle qu'on a faite.
Okay. Dans les masques, c'est t'arrives dans une ville, il y a un des sectateurs, je les détruis, je vais dans la suivante. Dans Terreur Sans Express, t'as l'artefact à récupérer, mais t'as jamais le même schéma. Au moment où t'arrives dans la ville, t'as jamais le même schéma d'enquête.
C'est pas à cause de cet argument favorable pour l'Orient Express, pour moi en tout cas, que je mets l'Orient Express au même niveau ou au-delà des masques. Voilà, il y a d'autres choses qui font que j'évalue une campagne de manière favorable. Je sais pas pour les autres.
Hein. Ah, sauf la coupe, la bande de marioles, vous rigoliez là.
Bon, moi je pense que de toute façon, suivant ton groupe, etc., tu fais ta tambouille, quoi. Tu fais ta cuisine, tu prends le meilleur, tu rejettes le reste.
Faut que ça t'inspire, c'est sûr, tout ça.
Ouais. Voilà. Bon, oh, voilà. On va rester sur la bonne parole de Maître Fox, modérateur, s'il en est, il faut que ça t'inspire. Donc, messieurs, eh bien, écoutez, je vais vous remercier d'avoir participé à ce long podcast, d'y avoir mis vos tripes, votre sueur, vos cookies, un peu bizarre.
Yes.
Je pense que très honnêtement, avec toutes ces discussions, pour ceux qui ont...
qui ne dorment pas.
Voilà, écoutez le podcast depuis le début, vous avez de vrais arguments pour et contre. Donc, j'espère que vous serez bien poilés en nous écoutant et que ça vous donnera
d'ailleurs des vrais arguments pour et des faux arguments contre, c'est ça que je voulais dire.
Bon, sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit, puis je vous souhaite aussi une bonne nuit à tous nos amis de podcast. Et donc, Fungloui.
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 Today we are canceling the apocalypse!